18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour deux heures d'information, d'analyse, de débat. Ça se passe sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir. On connaît maintenant, ça y est, les prévisions de trafic pour jeudi. Et ce sera compliqué au minimum. Hein. Le détail, les précisions dans un instant dans votre journal, Sébastien Krebs. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À quoi faut-il s'attendre aussi du côté des écoles à 18h20? Je recevrai Françoise Popineau, secrétaire générale du SNUPFSU, premier syndicat des enseignants du primaire. 18h30, les grandes voix dans ce studio spécial grève. On va vous donner toutes les informations au trafic, tous les points de blocage. Et puis bien sûr, on débattra de cette France qui s'apprête à être paralysée pour un jour ou pour plusieurs. On posera la question à nos éditorialistes. 19h30, un peu de détente et de culture avec Bruno Solo qui s'est intéressé à notre histoire de France et notre histoire européenne. Il regarde la France, il regarde aussi les gilets jaunes et les retraites. Il nous donnera son avis. Et puis toutes les sorties ciné, c'est avec Mathieu Charrier. L'info qu'il vous faut, votre grand journal du soir. C'est parti jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
On n'est pas surpris, mais déçus, c'est sûr. Il y a toujours des personnes qui ont que cette option-là, prendre les trains ou les métros.
Vous allez faire quoi alors ?
Ah ben, je sais pas.
Et c'est la grande question. Les contours d'un jeudi noir se dessinent dans toute la France. 90% des trains annulés, annonce la SNCF. Très peu de TER à Paris. 11 lignes de métro fermées.
Tous les détails des prévisions dès ce début de journal. Et nous serons notamment Gare Saint-Lazare.
Les enseignants aussi sonnent la mobilisation. 4 écoles sur 10 devraient rester fermées malgré les promesses du ministre Jean-Michel Blanquer.
Cette réforme pourrait avoir des effets négatifs sur la retraite des professeurs, mais nous sommes engagés à ce que ça ne soit pas le cas.
Le risque d'une pénurie d'essence semble s'éloigner. Un seul dépôt pétrolier reste bloqué dans l'Ouest.
Dans ce journal également, le climat scolaire en question. Trop difficile de se concentrer en classe. C'est l'une des raisons de la stagnation de la France au classement international PISA.
Et puis le face-à-face Trump-Macron à l'OTAN s'est étendu.
Et puis Bernard Pivot, tire sa révérence. Il quitte l'Académie Goncourt.
Je laisse la place à quelqu'un de plus jeune que moi. De beaucoup plus jeune que moi, je l'espère.
À presque 85 ans, il veut retrouver du temps libre. La Bourse de Paris, à nouveau en repli ce soir, moins 1% à 5727 points.
Et Anissa, la tendance météo, c'est avec vous. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Quelques nuages demain, mais la journée sera globalement placée sous le soleil avec des températures qui continuent de baisser. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
C'est un plan de transport ultra restreint que la SNCF a annoncé aujourd'hui à deux jours d'un jeudi noir. Ce 5 décembre, 90% des trains seront tout simplement annulés. On va faire le tour des prévisions de façon très précise avec vous, Aurélien Fleureau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous depuis le siège de la SNCF. Un train sur 10, donc seulement en moyenne.
Oui, plan de transport à minima annoncé par la SNCF, une mobilisation massive des cheminots, plus forte qu'en 2018 ou 2014, hein, pour ne comparer qu'avec les grèves les plus récentes. Alors dans le détail, eh bien, cela va donner un TGV sur 10 en moyenne. Ce sera un peu mieux aller sur l'axe nord entre Paris et Lille avec 1 sur 6. 1 sur 6, ce sont également les prévisions de circulation pour les TGV Ouigo. Sur le réseau Intercité, là ce sera également un train sur 10 avec par exemple un seul aller-retour entre Paris et Clermont. Et absolument rien entre Nantes et Bordeaux ou encore sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Côté TER, c'est encore pire, 3% de trains en circulation, même si des bus de substitution sont prévus sur certaines lignes. Alors là, il faut directement se renseigner sur les sites régionaux des TER ou directement en gare quand vous le pouvez. Et puis en Ile-de-France, même constat, un transilien sur 10. Alors c'est très disparate selon les lignes. Tous les horaires se trouvent sur le site ou sur l'application mobile de la SNCF.
Aurélien, et du côté de la RATP, trafic très très limité également. Hein.
Oui, et c'est même encore pire que le vendredi noir, le 13 septembre dernier. 11 lignes de métro fermées. Un service minimum sera tout de même assuré aux heures de pointe sur les lignes 4, 7 et 9, ainsi que sur les RER A et B. Pour les trams et les bus, ce sera 1 sur 3 en moyenne. Mais en tout cas, voilà, on est fixé pour le jeudi 5. Et pour la suite, c'est évident, les deux entreprises se préparent déjà à une mobilisation qui va durer.
Aurélien Fleureau en direct depuis le siège de la SNCF, donc des prévisions qui valent pour jeudi. On saura ensuite la suite au fur et à mesure des jours qui viennent. On le comprend et comme on s'y attendait, hein, il sera particulièrement difficile de se déplacer, notamment en Ile-de-France.
Et nous sommes ce soir à Gare Saint-Lazare avec Justin Morin, bonsoir.
Bonsoir.
Saint-Lazare, c'est plus de 300 000 voyageurs quotidiens, chacun cherche finalement une solution à l'heure qu'il est.
Oui, effectivement, et je rebondis sur ce que disait Sébastien. Même si les usagers, effectivement, s'attendaient vraiment ici à des prévisions très très difficiles, mais ils n'ont pas manqué de se renseigner sur leur téléphone portable une fois que l'information est tombée. Imène, par exemple, elle sort du train, enchaîne avec un métro sur le trajet. Elle a pu vérifier, la ligne L qu'elle emprunte tous les jours sera quasiment inexistante.
On n'est pas surpris, mais déçus, c'est sûr. Il y a toujours des personnes qui ont que cette option-là, prendre les trains ou les métros.
Vous allez faire quoi alors ?
Ah ben, je sais pas. Moi, je suis étudiante et je travaille. Je sais pas comment je vais faire. On espère déjà que ce soit que jeudi et vendredi et ça va pas s'allonger.
Voilà, c'est vrai que c'est vraiment la principale interrogation. Autant pour jeudi, ce sera télétravail ou la journée a été posée pour éviter la galère. Même les employés des magasins de la gare Saint-Lazare s'attendent à une journée bien terne. Hein, tous ne viendront pas. Mais le problème, excusez-moi, c'est la suite, selon Chantal et Liliane, venues passer quelques jours à Paris.
Je pense que on va y aller là, hein, dans le mur, comme en 95. Hein. Ben moi, c'est ma crainte. Et puis pour nous après, bien sûr, ça va être les fêtes de fin d'année. Ça va encore nous mettre dans des situations pas possibles.
Une journée de revendication et ça s'arrête, bon, on s'organise. Mais si ça s'éternise dans le temps, ça va être compliqué.
À noter, parmi les prévisions des intercités qui circuleront bien Gare Saint-Lazare, la SNCF ne prévoit que 2 allers-retours pour toute la journée sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre.
Justin Morin en direct de la gare Saint-Lazare à Paris. Les aéroports, eux, devraient être moins touchés. La Direction générale de l'aviation civile annonce que 80% du trafic sera maintenu. Air France annule 30% de ses vols domestiques et 15% de ses moyens courriers.
Et ce n'est pas tout. En plus des transports paralysés, beaucoup de parents doivent trouver un mode de garde pour leurs enfants car de très nombreuses écoles vont rester fermées jeudi.
70% des enseignants en grève dans le primaire, annonce le principal syndicat, le SNUIPP, et pas toujours de service minimum possible, faute d'agents de la commune pour prendre en charge les enfants. Du coup, presque la moitié des écoles, hein, 40%, vont rester fermées.
Et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, répond déjà aux grévistes. Il leur promet des garanties sur le niveau de retraite des enseignants. Écoutez.
Cette réforme pourrait, et je parle au conditionnel, avoir des effets négatifs sur la retraite des professeurs, mais le président de la République lui-même et le Premier ministre, et moi-même bien entendu, nous sommes engagés à ce que ça ne soit pas le cas. Donc ce message doit être entendu très clairement. Quand je vois par exemple des simulateurs qui circulent pour essayer de faire croire qu'il y aura une baisse des pensions, ça n'est pas sérieux parce qu'en réalité, nous garantissons justement qu'il n'y aura pas cette baisse des pensions. Et comment est-ce que nous le garantissons ? C'est en travaillant sur la rémunération. Nous parlons là de générations dont on va déterminer au cours des prochains temps, c'est le Premier ministre qui s'exprimera là-dessus, quelles générations sont concernées, donc par définition les plus jeunes. Mais c'est précisément ceux-là qui ont besoin d'une amélioration de leur rémunération. Et donc c'est cela que nous allons planifier.
Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, au micro de Virginie Riva.
Et on va en reparler dans le détail à 18h20, dans 12 minutes, avec mon invité Françoise Popineau, secrétaire générale du SNUIPP-FSU, premier syndicat des enseignants du primaire. On fera aussi un point global avec Emmanuel Dutheil dans les grandes voies sur les transports, les écoles, mais aussi le secteur privé.
Enfin, s'agissant des manifestations qui sont prévues jeudi, compte tenu des inquiétudes sur la sécurité, la préfecture de police de Paris a ordonné la fermeture de tous les commerces situé sur le trajet du cortège de la gare de l'Est jusqu'à la place de la Nation. Les syndicats promettent de renforcer leur service d'ordre.
Il est 18h07 sur Europe 1. La suite du journal, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Regardons de près également ces inquiétudes ce soir des automobilistes dans l'Ouest après le blocage de plusieurs dépôts pétroliers. Une bonne nouvelle ce soir, le risque de pénurie, Sébastien, s'éloigne.
Il y avait encore ce matin 5 dépôts pétroliers bloqués. Celui de Rennes a été débloqué par la police. Sur d'autres sites, les mouvements ont été levés par les entrepreneurs du BTP qui protestent contre la perte d'un avantage fiscal lié au gazole non routier. Il ne reste donc ce soir qu'un seul point de blocage à Lorient où vous vous trouvez, François Coulon. Et où les artisans, en revanche, là, pour l'instant, ne semblent pas désarmés.
Effectivement, 70 engins de chantier bloquent toujours ce dépôt lorientais tenu par le plus déterminé des patrons du BTP breton. Norbert Guillou n'en démord pas. Seule une invitation du Premier ministre pourra le convaincre de lever le camp.
Nous, on ne partira pas tant qu'on n'aura pas eu le rendez-vous avec Édouard Philippe et que la loi soit votée après le rendez-vous.
Vous craignez pas, là, que les CRS arrivent avec leur grue ?
C'est vrai que depuis 2 jours, ils nous ont vraiment pris pour des moins que rien et ça, on ne supporte pas.
Tous les barrages ont été levés, il ne reste plus que celui-là. Vous n'avez pas l'impression que vous faites un combat de trop ?
La bataille n'est pas terminée, on ne va pas s'arrêter là. Je dis, on est de nouveau dans la rue.
Mais là, peut-être que les CRS vont lever votre blocus.
Ah, ils ont le droit de venir, on est là.
Ça risque de ne pas bien se passer.
On est là, on est outillés aussi. Pour le moment, on est là.
Vous allez faire de la résistance ?
Non, on ne fera pas de résistance. Non, non, on n'est pas là pour casser.
Voilà un jusqu'au boutisme plutôt symbolique qui ne masque pas un sentiment d'échec. Après 5 jours de blocage, les artisans demandaient un délai de 5 ans pour encaisser le choc de la suppression du gazole détaxé. Le gouvernement est resté inflexible. Le coup près tombera dès 2022.
François Coulon en ligne de Lorient pour Europe 1.
On en vient à la profanation de ce cimetière juif en Alsace. Des inscriptions antisémites ont été retrouvées sur 107 tombes. Ça s'est passé à Westhoffen, dans le Bas-Rhin.
Proche de Strasbourg, et des tags avaient déjà été découverts ce matin à une vingtaine de kilomètres de là. Nous serons sur place dans le journal de 19h. Et puis on l'apprend ce soir, un ingénieur français travaillant pour le groupe Thales a été tué par balle en pleine rue à Bogota, en Colombie. Ça s'est passé dans un quartier huppé. Le tireur l'a semble-t-il visé avant de prendre la fuite. Cet ingénieur de 45 ans était en mission sur place en Colombie.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy. Un mauvais climat scolaire dans les classes françaises, c'est en tout cas ce que pointe l'OCDE, le niveau des élèves français. Nos élèves stagnent dans le classement PISA, c'est à suivre.
Et puis Bernard Pivot quitte l'Académie Goncourt.
Vous écoutez Nathalie Lévy, votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite du journal sur Europe 1, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy. 21e au classement, on pourrait qualifier cette position de médiocre. En tout cas, la France stagne dans le classement international PISA qui mesure le niveau scolaire.
Oui, c'est la Chine et Singapour qui tiennent la tête de cette grande enquête internationale qui évalue les élèves de 15 ans dans les pays de l'OCDE. La France en milieu de classement avec toujours un gros point noir. Le système scolaire ne parvient pas à gommer les inégalités sociales.
Et l'OCDE pointe un autre aspect, un mauvais climat à l'école, Yasmina Katou. Il est trop difficile de se concentrer dans les classes, c'est ça ?
Effectivement, plusieurs raisons expliquent ce problème de discipline dans les classes. Selon l'étude PISA, 6 élèves sur 10 ressentent un manque de soutien de la part de leurs professeurs. Plus d'un élève français sur 3 regrette un manque d'aide des enseignants. L'absence d'autorité des profs est aussi pointée du doigt. Mais le problème dont se plaignent le plus souvent les élèves, c'est le bruit en cours.
Ça perturbe les élèves, mais c'est aussi au niveau du professeur qui, du coup, il se consacre essentiellement sur le problème des bavardages et moins sur le cours lui-même.
On n'entend pas beaucoup ce que la prof dit. On termine à l'heure de classe et on a fait un quart de ce qu'on était supposé de faire.
Les profs, ils ne cherchent pas forcément à faire comprendre la classe. Ils se disent « la classe en général est dissipée, donc j'abandonne, ils se débrouillent, quoi ».
La France est l'un des pays où il y a le plus de perturbations pendant les cours. Derrière nous au classement, le Brésil et l'Argentine. Un problème de formation des profs, explique Éric Charbonnier, l'un des experts ayant mené l'étude.
Aujourd'hui, nos enseignants sont mal préparés sur cette partie de gérer les classes de niveau de plus en plus hétérogène. Il faudrait vraiment réformer au maximum le volet pédagogique du métier pour qu'il soit préparé à faire face à tous ces défis.
Et cette lacune en formation est confirmée par certains professeurs. Le président du syndicat UNSA nous le confiait cet après-midi. En France, c'est comme si on mettait un pilote sans brevet, tout seul, aux commandes de l'avion.
Un reportage signé Yasmina Katou pour Europe 1.
Le projet de loi de budget de la Sécurité sociale, adopté ce soir à l'Assemblée nationale. Sébastien, budget toujours objet de critique malgré le plan d'urgence pour l'hôpital ajouté par le gouvernement il y a 2 semaines.
Et puis le face-à-face, Trump-Macron. Cet après-midi, les deux hommes se sont retrouvés à Londres pour le sommet de l'OTAN dans un contexte plutôt tendu avec les menaces de guerre commerciale brandies par les États-Unis qui envisagent de taxer une 60aine de produits français pour riposter à la taxe GAFA. Et puis il y a eu ces propos du président français, la mort cérébrale de l'OTAN, pas du tout passée côté américain. Adrien Beck, vous avez suivi cet entretien un peu tendu tout de même hein, entre les deux hommes.
Oui, l'exercice convenu s'est transformé en une conférence de presse improvisée, presque un débat entre les deux présidents. Les sourires sont crispés, Donald Trump parle, Emmanuel Macron réplique. Ah. Le président américain avait jugé ce matin très insultant les propos d'Emmanuel Macron sur l'OTAN. « Je les maintiens », répond le chef de l'État. Autre marqueur de cette tension, cet échange tendu sur l'État islamique.
Nous avons de nombreux prisonniers, combattants de Daesh en Syrie. Certains viennent de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, ils viennent surtout d'Europe. Je n'en ai pas encore parlé au président Macron. Voulez-vous de gentils combattants de Daesh ? Allez, prenez ce que vous voulez.
Allez, soyons sérieux. Il y a une grande partie des combattants de Daesh qui viennent de Syrie, d'Irak et des alentours. C'est vrai qu'il y a des combattants étrangers venant d'Europe, mais ils représentent une toute petite minorité du problème.
Des divergences affichées au grand jour, même si Donald Trump a reconnu dans les pas d'Emmanuel Macron qu'il était possible de s'entendre avec la Russie. Enfin, le président américain a assuré que Paris et Washington régleront probablement leurs différends sur la taxe GAFA. Un échange de presque 40 minutes qui s'est conclu aussi fraîchement qu'il avait commencé, sans poignée de main.
Adrien Beck en direct de Londres pour Europe 1.
C'est lui qui a annoncé le concours chaque année. Bernard Pivot quitte l'Académie.
Il en était membre depuis 15 ans. Il l'a présidé depuis 2014. Nicolas Caro, bonsoir.
Bonsoir.
L'homme d'apostrophe préfère donc se retirer, même s'il était élu à vie.
Oui, à bientôt 85 ans. Bernard Pivot sature un peu le concours. On en parle une fois par an, en novembre. Mais c'est beaucoup de travail, en fait. Toute l'année, des voyages pour les concours étrangers, une réunion de travail tous les mois et bien entendu, des dizaines et des dizaines de livres à lire. Pour le président, il était temps de passer la main.
Je laisse la place à quelqu'un de plus jeune que moi, de beaucoup plus jeune que moi, je l'espère. Et puis, par une sorte d'égoïsme bien naturel, quand on prend de l'âge, de retrouver le plein usage de mon temps, notamment l'été, quand il faut lire, au lieu de profiter de sa famille, des vacances, de la mer.
Nicolas, il a été considéré comme un bon président.
Oui, adepte du consensus, mais surtout incorruptible. Il a réussi à redresser l'image du Goncourt que l'on accusait parfois de petits arrangements. Mais Bernard Pivot n'était pas destiné à devenir président du Goncourt. C'est d'ailleurs son élection qui reste son meilleur souvenir.
Le plus grand moment pour moi, ça a été mon élection, parce que c'était inespéré, puisque seuls les écrivains entrent à l'Académie Goncourt, et moi je n'étais pas un écrivain, j'étais un journaliste. Journaliste littéraire, certes, mais journaliste.
Le nouveau président sera élu le 21 janvier prochain. En attendant, c'est la vice-présidente Françoise Chandernagor qui assume la fonction.
Bon, il aura plus de temps, il va continuer à lire tous ses livres.
Oui, Bernard, il a le JDD aussi, il a sa chronique.
Puis il reste
JDD.
Membre d'honneur de toute façon.
Membre d'honneur, effectivement, mais il ne peut plus voter.
Exactement.
On verra ce qu'il pense du prochain Goncourt. Merci Nicolas Caro, spécialiste livre d'Europe 1.
Merci Sébastien, vous revenez dans 15 minutes précisément pour un nouveau journal. C'est Anissa qui va enchaîner pour nous dire quoi, qu'il y aura de la grisaille demain. Tiens.
Comme aujourd'hui, Nathalie, sur la moitié nord et sur le sud-ouest, des nuages bas demain et des brouillards givrants par endroits. Soyez prudents si vous devez prendre la route tôt demain matin. Alors bonne nouvelle, cette grisaille, elle va se dissiper au fil des heures. Attention, si vous nous écoutez ce soir en Bretagne, dans le Val-de-Loire et en Normandie, là les nuages resteront assez tenaces tout au long de la journée. Sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude, les nuages sont beaucoup plus épais, avec de la pluie et de la neige à partir de 1800 mètres. Sur tout le reste du pays, écoutez bien, si je n'ai pas cité votre région, sur tout le reste du pays,
attention.
Demain c'est du soleil, grand et beau soleil sur quasiment toute la France demain. Attention sur la Corse et les côtes varoises, le vent de nord-est souffle jusqu'à 90 km/h. Et alors les températures, elles sont en chute libre, avec de plus en plus de gelées matinales, moins 5 à Montluçon demain matin, moins 3 à Dijon, 0 à Paris, 9 à Toulon dans l'après-midi, 3 à 18 degrés de Trappe à Ajaccio.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir. On continue bien sûr à vous donner toutes les précisions, les prévisions de blocage pour les heures et les jours à venir. Je reçois dans un instant Françoise Popineau du syndicat majoritaire chez les enseignants primaires. Combien de professeurs seront en grève jeudi ? Combien d'enseignants ? Combien de parents vont galérer pour pouvoir placer leurs enfants ? Sa réponse dans deux minutes.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, et on continue à faire le point à quelques heures de la grève de jeudi. Quelle sera la situation dans les écoles ? Votre invitée ce soir, Nathalie Lévy, est Françoise Popineau. Elle est secrétaire générale du SNUIPPFSU. C'est le premier syndicat des enseignants du primaire.
Bonsoir Françoise Popineau.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio au micro d'Europe 1. Alors on est prévenu, il faut s'attendre à voir les enseignants mobilisés en nombre jeudi un peu partout en France.
Oui, c'est un chiffre inédit puisqu'on annonce près de 7 enseignants sur 10 qui seront donc grévistes ce jeudi.
Près de 7 sur 10, vous nous dites ce soir.
Et 4 écoles sur 10 fermées.
Dans l'enseignement primaire. Et les zones les plus touchées, est-ce que vous savez déjà ? J'ai lu qu'à Paris, ça allait être autour de 80% des enseignants en grève.
Paris et l'Île-de-France sont très marqués, mais on a aussi beaucoup de départements qui sont très mobilisés. C'est quand même une mobilisation sans précédent sur l'ensemble de la France.
Et pour être complet, j'ai dit que dans les collèges et les lycées, on est à peu près autour des 60% pour la journée de jeudi. Ce sont des chiffres inédits depuis 1995 annoncés, mais encore faut-il que ça suive dans la rue ?
Oui, alors on l'espère, bien sûr, on espère qu'il y aura du monde parce qu'il faut effectivement que ce signal d'alarme soit porteur. Il faut effectivement que le gouvernement prenne la mesure de ce qui de cette réforme des retraites qui impacte tout le monde, qui vise à baisser les pensions et qui évidemment pénalise doublement les enseignants du primaire.
Qui vous pénalise comment ? C'est-à-dire, ce nouveau calcul, il vous ferait perdre combien ?
Alors, il nous ferait perdre beaucoup, parce qu'il nous ferait perdre 600 à 900 euros par mois.
En fonction des carrières ?
En fonction des carrières, bien sûr, en fonction du nombre d'annuités, hein, c'est-à-dire le temps, la durée dans le métier, et des indemnités des uns et des autres. Donc, on a 600 à 900 euros d'écart entre un système comme aujourd'hui et un système tout à point.
Parce qu'en fait, ce que vous dénoncez, pour expliquer bien à nos auditeurs, c'est que sur cette nouvelle réforme, sur cette réforme, sur ce nouveau calcul, seraient pris en compte les débuts où les rémunérations sont plus faibles.
Oui, alors tout le monde le sait, hein, il y avait comme un pacte social qui était fait, donc on avait des salaires très bas, on a des salaires très bas, hein, puisqu'à Bac plus 5, on démarre entre 1400 et 1600 euros hein, par mois, donc avec une progressivité lente, et c'est en fin de carrière où on perçoit un petit peu plus, et donc le calcul est fait
sur les 6 derniers mois actuellement. Mais voilà. Vous comprenez que sur les 6 derniers mois actuellement, pourquoi vous continueriez à profiter de ces 6 derniers mois actuellement contre d'autres professions qui sont calculés sur l'ensemble de leur carrière.
Oui, alors on ne profite pas de grand-chose parce que si on regarde bien, les salaires des enseignants français sont quand même ceux qui sont les plus bas de l'échelle par rapport aux autres pays de l'Union européenne.
Je voudrais comprendre, Jean-Michel Blanquer, il vous a fait une promesse pour l'instant. Il a été très clair, on l'a entendu dans le 18h de Sébastien Krebs. Il s'engage, il garantit, comme l'a répété, il cite Emmanuel Macron, ils garantissent aujourd'hui, donc au gouvernement, qu'il y aura une revalorisation du salaire des enseignants afin de ne pas sentir cette baisse des pensions. Emmanuel Macron l'a dit, que vous ne soyez pas lésés, que vous ne soyez pas perdants. C'est garanti.
Alors, ça sent Noël, tout ça. Donc, effectivement, il y a un constat partagé hein, de l'ensemble des ministères. Mmh. Ils sont d'accord pour dire qu'on sera les perdants parmi les perdants.
Ça, ils l'ont
là-dessus, ça, c'est
concédé.
Partagé. Et puis, on a effectivement des promesses. Et puis, d'un autre côté, on a des groupes de travail sur les salaires. C'est la troisième réunion à laquelle on va. Et rien n'est mis sur la table. Donc,
mais ça,
si
ils
vous
enchaînent,
voulez...
là. Jean-Michel Blanquer, le président de la République Emmanuel Macron, Bruno Le Maire l'a redit encore hier. Vous croyez qu'ils vont comme ça enchaîner les confirmations sur les médias pour finalement se désengager ensuite ?
Bah écoutez, de toute façon, on n'a pas tous les indicateurs ne sont pas réunis pour qu'on marche à la confiance. Hein. Donc il faut mettre des propositions sur la table. Il faut montrer clairement comment les choses vont se faire. Effectivement, ça a un coût. Si on veut aligner les salaires des enseignants pour qu'effectivement il n'y ait pas de déperdition à la retraite, donc ça a un coût. Donc il faut nous expliquer comment les choses vont se passer.
Donc aujourd'hui, vous attendez un calendrier, vous attendez le chiffrage pour savoir si effectivement cette proposition est tenable. Aujourd'hui, vous dites, on doute. On n'a pas confiance.
On doute, et puis les seuls bruits de couloir qu'on a joueraient uniquement sur les indemnités. Or, on sait que d'un gouvernement à l'autre, une indemnité, ça peut disparaître. Nous, on a vraiment un déclassement salarial. C'est là-dessus qu'il va falloir jouer. Donc, il faut nous montrer quelles sont les propositions. Discutons avec des choses concrètes. Pour l'instant, nous n'avons rien.
Donc, quand vous dites, discutons, nous n'avons rien, on discute, mais on va quand même dans la rue.
Ah, on va dans la rue parce que pour l'instant, nous n'avons rien. La seule chose sur laquelle dont nous sommes sûrs, c'est que nous aurons une perte de 600 à 900 euros par mois. Ça, c'est au bas mot parce que nous avons 83% de la profession qui est constituée d'enseignantes, donc des femmes qui ont des carrières interrompues. Et donc, ça veut dire qu'elles seront encore plus pénalisées. Donc, évidemment, l'état, on va dans la rue et on va manifester.
Et possiblement vendredi aussi ?
Possiblement, on ne sait pas parce qu'on va se réunir le 5 au soir, on va faire l'état des lieux, mais ce qui est sûr c'est que sans proposition concrète, sans abandon de cette réforme pour le premier degré, la grève sera renouvelée.
Donc quoi,
c'est évident.
Ça veut dire quoi ? Vous espérez une proposition concrète dès jeudi ? Au regard de la mobilisation, vous pensez que le gouvernement va donner des clés, des chiffres et vous dire de combien sera la revalorisation et quand ?
Moi, j'encourage le gouvernement effectivement à faire des réponses rapides parce que c'est pas, je pense que ça n'intéresse personne que le pays soit bloqué pendant des jours et des jours. Donc il faut effectivement des réponses concrètes.
Donc vendredi possiblement, c'est ce que vous nous dites, c'est en discussion et au-delà, c'est aussi en discussion jusqu'aux vacances de Noël, c'est possible ?
Oui, mais si vous voulez, ce n'est pas un jeu. Hein. On est donc dans quelque chose, effectivement. Effectivement, on se rend compte qu'une journée, ce ne sera pas, parce qu'on voit bien les discours aujourd'hui, on voit bien qu'une journée, ce ne sera pas suffisant. Donc, en effet, on fera des actions, pas nécessairement les jours travaillés, mais on fera des actions autant de fois que nécessaire pour obtenir satisfaction, bien
sûr.
Alors,
vous êtes prête à faire durer le mouvement, vous le dites, et les parents dans tout ça, et les écoliers dans tout ça.
Alors, comme je le disais, les mouvements ne seront pas uniquement sur des jours travaillés, bien évidemment. Et puis, il y aura des roulements entre les enseignants. On ne fera pas des manifestations à 70%. tous les jours.
Mais par exemple, mais depuis 2007, donc depuis 12 ans, hein, le service minimum d'accueil, le SMA, doit être assuré. Est-ce que ce sera le cas déjà de jeudi pour commencer ?
Ce sera très difficile parce que nous avons aussi beaucoup d'agents territoriaux qui seront grévistes. Donc ce sera très difficile d'assurer. Il n'y aura pas assez de remplaçants dans l'éducation nationale et il n'y aura sans doute pas assez de personnel dans les, dans les collectivités. Donc les mairies feront que ce qu'elles peuvent faire.
Donc ça veut dire, vous répondez quoi en fait ce soir à la colère des parents, à tout ce que ça engendre comme parfois jour à prendre de congé, les difficultés pour eux ?
Alors je ne vais pas minimiser la colère des parents, mais ce qu'on en entend aujourd'hui, c'est plutôt des parents qui sont avec nous, qui sont aussi grévistes d'ailleurs. Donc je pense que tout le monde se rend compte que cette réforme, elle vise à une chose, hein, c'est à baisser les pensions. Alors nous sommes certainement les plus touchés par cette baisse, hein, elle est très notable
chez nous. Emmanuel Macron l'a reconnu,
tout le monde le reconnaît, mais nous ne serons pas les seuls affectés par cette réforme et tout le monde le sait aussi. Donc les enseignants, c'était la surprise parce qu'on s'attendait au transport, on s'attendait, mais on ne voyait pas arriver les enseignants. Mais il n'empêche que nous sommes nombreux à être surpris et comme nous sommes à la fois aussi, nous avons des parents qui sont de métiers divers, ils seront aussi avec nous dans la rue.
Merci beaucoup Françoise Popineau d'être venue ce soir répondre à mes questions sur Europe 1.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Eh bien, le débat des grandes voix au programme, cette veillée d'armes avant le début des perturbations, transport, école, vous l'avez entendu à l'instant. On continue à vous donner toutes les informations, y compris dans le privé. Vous allez voir, ça bouge aussi. On fait le point et on analyse dans une seconde.
Et vous pouvez interpeller les grandes voix au 39-21. C'est votre grand journal du soir et c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec le rappel des titres de Sébastien Krebs, et les grandes voies sont déjà installées, vous les avez peut-être entendues.
Un jeudi noir en prévision, le trafic annoncé par la SNCF, 90% des trains annulés après-demain, un TGV sur 10 circulera, mais seulement 3% des TER, trafic quasi nul en Bretagne et Occitanie. En Ile-de-France, des Transiliens et RER essentiellement aux heures de pointe. La RATP ferme 11 lignes de métro. Toutes les prévisions en détail sur europe1.fr. Le risque d'une pénurie d'essence semble s'éloigner. Il n'y a plus qu'un seul dépôt pétrolier bloqué ce soir à Lorient. La profanation d'un cimetière juif près de Strasbourg, des tags antisémites et des croix gammées trouvées sur une centaine de tombes à Westhoffen dans le Bas-Rhin. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, dénonce des actes abjects. L'optimisme affiché par Donald Trump au moment de rencontrer Emmanuel Macron aujourd'hui à Londres, la France et les États-Unis vont probablement régler leurs différends, dit-il après les menaces de guerre commerciale. Greta Thunberg a accosté en Europe, arrivée au Portugal après une traversée retour de l'Atlantique. L'écologiste suédoise a été accueillie à Lisbonne. Nous serons sur place dans le journal de 19h. Elle va participer à Madrid à la COP25. Et puis le foot ce soir, début de la 16e journée de Ligue 1. 19h Angers-Marseille, Bordeaux-Nîmes et Brest-Strasbourg. 21h Lyon reçoit Lille.
Mais vous Sébastien, vous êtes de retour à 19h. Anissa, un véritable mercredi d'hiver demain.
Oui, c'est ça, exactement. Alors sur la moitié nord, la journée va commencer sous les brumes et les brouillards. Attention, des brouillards givrants par endroits, prudence. Dans la journée, au fil des heures, ces nuages vont se dégager pour laisser place au soleil. C'est une très belle journée ensoleillée demain. En Bretagne, en Normandie, sur les Pyrénées-Orientales et en Corse, les nuages vont quand même persister. Les températures, elles sont en chute libre. Moins 5 demain matin à Montluçon, moins 3 à Charleville-Mézières, 0 à Paris demain matin et 8 à Nice. Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, et jusqu'à 19h, vous êtes entourée des grandes voix.
Et oui, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, tous les trois sont dans ce studio. Bonsoir à vous, bienvenue.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Merci d'être là, évidemment, cette veillée d'armes qu'on suit et à laquelle on vous fait participer. On vous informe au plus près pour à la fois avoir toutes les précautions et avoir l'état des lieux de cette situation. Alors Charles Villeneuve, quand même, comment vous sentez? C'est dans une seconde, tiens, que je vous pose la question. Ça, c'est du teasing, c'est dans une seconde.
Et vous pouvez vous aussi interpeller les grandes voix, ça se passe au 39-21 sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous, Nathalie Lévy, ce soir Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Ça y est, cette fois c'est un vrai démarrage. Alors, comment on regarde ce qui va se passer demain? Vous avez, demain, parce que ça commence demain à 18h, vous avez entendu Françoise Popineau, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Emmanuel Dutheil, les enseignants, ils vont descendre en nombre dans les rues à partir de jeudi. Les policiers, globalement les hôpitaux aussi n'accueilleront pas. Tout ça, ça vient se corroborer avec les transports, SNCF, RATP. On a des chiffres dantesques là ce soir. Ça sent très mauvais.
Non, mais Emmanuel Dutheil va nous dire avec précision justement tout ça. Moi, ce qui me semble, et c'est vrai, j'ai entendu votre invité tout à l'heure, la prof, moi, ce qui me paraît inquiétant et problématique, c'est que beaucoup de métiers de service public ont craqué et vont participer à la grève des jeudis. Les policiers, les pompiers, les policiers, je dirais que dans le cadre des conversations que j'ai eues avec quels syndicalistes, comme les journalistes de cette rédaction, c'est que manifestement, eux, et sur le plan du salaire et le besoin de reconnaissance, comme les pompiers, est vraiment très sensible. Et par-dessus le marché, je dirais que leur exaspération n'a fait que monter depuis un certain nombre de semaines et de mois. Il y a l'affaire des Gilets jaunes, mais pas seulement. Il y a
les non-réponses du gouvernement aussi, le flou entretenu par le gouvernement.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'ils seront là. Et c'est ça qui me paraît, justement, problématique.
Sentir donc très mauvais. Gérard Carrérou,
oui, vous savez, on a beaucoup
au fil
parlé,
des heures, ça.
On a beaucoup parlé, on dit le gouvernement craint la coagulation. En fait, il n'y avait pas de coagulation, il n'y avait pas... Mais il y a quelque chose qui, en dépit de tout, rassemble les gens, c'est l'inquiétude. Et il n'y a pas mieux pour faire monter l'inquiétude, c'est effectivement le flou absolu.
Voilà.
Alors les gens ont peur, ils avaient déjà peur, je dirais, ils, globalement, beaucoup de gens n'ont pas tellement envie de travailler plus. Ils savent quelque part que c'est inéluctable, qu'on arrive à travailler jusqu'à 64 ans. Mais enfin bon, ils n'étaient déjà pas très contents de cette perspective. S'ajoute à ça une réforme dont tous les paramètres connus, puisque beaucoup sont inconnus, mais tout ce qui est connu laisse entendre que beaucoup de gens ont à perdre. Les profs, là tout à l'heure, les profs, c'est 600 à 900 euros par mois de retraite,
de perte
pour leur retraite, ouais. Etc. Donc du coup, il n'y a rien de mieux pour rassembler un max de gens à partir de demain. Et peut-être, vous avez entendu.
Reconductible.
Et puis, il faudra. Et on parle déjà de la semaine prochaine. On n'a même pas commencé qu'on parle déjà de la semaine prochaine. C'est le flou qui est le flou artistique.
Nathalie, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'est jamais mis, si vous voulez, en avant quelques points positifs du projet. Ce qui est le cas, par exemple, sur le minimum de retraite de 1 000 euros. Ce qui est, par exemple, sur la pénibilité. J'aurais pensé qu'ils auraient avancer là-dessus, parce qu'on ne peut pas traiter un ouvrier du bâtiment comme on traite un journaliste ou un prof.
Donc, erreur aussi de communication et de pédagogie du gouvernement. Emmanuel Dutheil, ce qui va donner, on va commencer par les transports dans cette partie-là, les transports, le rail notamment. On se prépare à quoi ? À pratiquement l'équivalent depuis 95 ?
Oui, là on est sur des journées qui sont totalement historiques. Hein. C'est-à-dire que même si on regarde par rapport au mouvement qui avait pu avoir lieu lors de la loi pour changer le statut à la SNCF, on n'est pas du tout sur ces niveaux-là. On est bien au-delà. Hein. Je vais vous donner quelques chiffres. À la SNCF, 90% du trafic TGV est annulé ce jeudi. Attention, hein, pour ceux qui nous écoutent, ça commence dès demain soir, 19h. Vous n'aurez que 20% des TER en moyenne. Vous n'aurez que 10% des Transiliens. Là, c'est les RER d'Île-de-France, vous n'aurez que 10% des intercités. Et j'aimerais dire, encore s'il y a ces 10% sur tous ces trains. Donc on est sur quelque chose d'énorme.
Emmanuel, un TGV sur 10,
oui,
c'est ça.
Oui, c'est ça. 9 TGV sur 10 sont annulés. C'est notamment l'axe ouest qui va être particulièrement touché. On a également du côté de la RATP, alors là c'est les Franciliens qui vont être particulièrement touchés. Vous avez deux lignes qui vont rouler, mais uniquement parce qu'elles sont automatiques, la ligne 1 et la 14 pour les connaisseurs. Vous allez avoir un trafic extrêmement limité sur la ligne 4 et la ligne 7. Quand je dis extrêmement limité, c'est grosso modo, vous allez avoir 3 heures de service de 6h30 à 9h30 le matin, puis un petit peu de 17h à 20h, un tout petit peu de bus, un tout petit peu de RER. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement les prévisions pour ce jeudi. Je peux vous dire qu'en interne, que ce soit à la RATP ou à la SNCF, on n'envisage aucune amélioration avant au mieux lundi et encore.
Ah oui. Bon, alors comment le gouvernement se prépare à une grève durable ? On va y venir aussi dans un instant avec vous. Et puis l'incohérence quand même, parce que malgré tout, plus de 70% des Français sont favorables à cette réforme des retraites. Mais le chiffre qui va moins bien, c'est que 64% ne font pas confiance à Emmanuel Macron. C'est ça.
Ils ne font pas confiance à M. Macron pour l'appliquer.
Je vous fais réagir là-dessus, Gérard, dans un instant. On retourne de là, dans un instant.
La suite de votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est dans un instant sur Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix ce soir. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Autour de vous, Nathalie Lévy.
Est-ce qu'on doit s'attendre à un mouvement long et tendu? Est-ce que le gouvernement se prépare à cela? On se le disait, Gérard Carrérou, juste avant la pause, plus de 70% des Français sont favorables à cette réforme des retraites, mais 64% n'ont pas confiance dans l'exécutif, n'ont pas confiance dans Emmanuel Macron. C'est pour ça?
C'est pour ça qu'il y aura, un mouvement probablement massif dès jeudi, qui durera jusqu'à dimanche, et qu'on s'interrogera sur la semaine d'après. Mais au fond, vous disiez sur les troupes, les gros bataillons du mouvement, c'est effectivement la fonction publique, SNCF, RATP et quelques autres. Mais on avait, souvenez-vous de 95, pour les plus vieux de ceux qui nous écoutent, en 95, on a vu se développer un concept qui était celui-ci, le vote, pas le vote, mais la grève par procuration. Oui. C'est-à-dire que dans le privé, il y a énormément de gens qui voudraient aller bosser, qui essaieront d'y aller, mais qui ne pourront pas, pour certains, parce qu'ils n'auront pas les moyens de transport, et ils seront quand même solidaires du mouvement, parce qu'ils diront, nous, de toute façon, on ne peut pas faire grève parce qu'on n'en a pas les moyens et puis on ne veut pas avoir on peut pas se faire virer ou autre. Mais on le fait par solidarité avec les autres parce que, ça, après tout, ils combattent pour un combat qui est un peu le nôtre aussi.
En fait, c'est Emmanuel Macron s'est attaqué à toutes les corporations à la fois. Il les a liguées, finalement, toutes contre lui.
Et vous savez, la parole de l'Assemblée, je m'arrêterai là, mais la parole de la constituante, quand un député se tourne et dit à Robespierre, vous ne donnez pas le nom de ceux qui seront proscrits. Et à partir du moment où vous n'avez pas donné le nom des proscrits, tout le monde s'est solidarisé contre vous. Il fallait dénoncer les... Eh bien là, c'est un peu pareil. Si vous aviez dit, monsieur le gouvernement, si vous aviez dit, un tel perdra, un tel perdra, mais tous les autres auront une chance de gagner, ça aurait peut-être été différent.
Emmanuel Dutheil.
Alors, plusieurs points. Juste, si on veut être honnête sur la présentation du gouvernement, il ne s'était jamais engagé à le faire début décembre 2019. La présentation du projet de loi sur les retraites, c'était logiquement prévu au printemps prochain et sûrement... Après les municipales, puisqu'il voulait essayer d'enchamber cette difficulté. Sur le privé, c'est très compliqué d'avoir des remontées extrêmement objectives. On sait que dans les entreprises où il peut y avoir de temps en temps une conflictualité, il y a quelques mouvements. Par exemple, Lionel Gougeot, notre correspondant dans le Nord, nous faisait savoir que chez PSA à Valenciennes, les délégués syndicaux appellent à une mobilisation. Il y aura même une AG un jeudi matin pour décider. Chez Renault à Douai, il y a également de la part des délégués syndicaux un appel. On a assisté hier à une réunion de tous les délégués syndicaux dans le secteur du commerce. Alors c'était la CGT, donc ils sont plutôt va-t-en-guerre dans cette histoire. Là aussi, ils espéraient que certains se mobilisent. Mais il n'y aura pas, a priori, en tout cas dans les premiers jours, une mobilisation intense de la part du privé. Par ailleurs, il y a deux éléments qui sont extrêmement intéressants, puisqu'on compare beaucoup par rapport à 95. Deux éléments qui vont changer complètement la donne sur l'ampleur de la grève. Un, vous avez peut-être trouvé ça étonnant, mais il n'y avait pas de télétravail en 95.
C'est vrai.
Tout simplement parce qu'en 95, il n'y avait pas d'ordinateur personnel.
Donc là, les gens se sont organisés.
Donc il y a une possibilité de télétravail, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a une possibilité d'information. Ça n'existait pas. En 95, nous n'avions pas de téléphone portable. Ça ne va pas régler l'énervement et ça ne va pas faciliter les gens pour aller travailler.
Mais c'est vrai que c'est une donnée.
Mais ça change quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Bien sûr. Charles Villeneuve, quand même, si cette fois le privé se mobilise et massivement, on sera dans quelque chose d'inédit.
Ça n'est pas les prévisions, alors évidemment, ça n'est pas les prévisions de notamment du MEDEF. Moi, j'ai appelé tout à l'heure le directeur des cabinets Geoffroy Roux de Bézieux, qui lui était d'ailleurs, comme vient de le dire Emmanuel Dutheil, en disant c'est la CGT qui s'agite, c'est vrai, mais nous, on ne sent pas vraiment de détermination dans le privé, jusqu'à présent, en tout cas ce soir. Moi, ce qui me semble, si vous voulez, très difficile de prévoir, c'est que ce ne sont pas les centrales syndicales qui ont initié ce mouvement, c'est surtout la base. Et comme la radicalité de la base est quand même forte, c'est pour ça que ça rend le mouvement imprévisible. Et c'est pourquoi, on l'a rappelé hier durant l'émission avec Gérard, etc., et Emmanuel, je pense, est tout à fait d'accord là-dessus, le test, ce sera lundi.
C'est lundi. Et de la durée de la grève dépendront les réponses du gouvernement. Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce ne sont que des propositions. La seule chose qui existe, c'est un rapport de Levoy. Il n'y a rien de plus que ça.
Les propositions, c'est après le mouvement.
Ce sera pendant le mouvement, et ça dépendra des difficultés.
Mais quand même, et je voudrais qu'on y revienne dans un instant, ça c'est encore du teasing, c'est la fermeté qui reste de mise. Je n'y renoncerai pas, a prévenu Emmanuel Macron. Édouard Philippe, il se dit plus déterminé que jamais. Donc ça, c'est quand même une donnée qu'on garde.
S'il disait le contraire, ça serait quand même...
Bien sûr, c'est du teasing, Gérard.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est tous les jours, jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous, Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Va-t-on vers une mobilisation record à partir de demain, mercredi, 19h? On l'a vu dans les transports, ça va être très compliqué, les écoles également, la fonction publique et puis même dans le privé, même si c'est beaucoup plus modéré. On va prendre André depuis Strasbourg. Bonsoir à vous, vous nous avez appelé au 3921. Bienvenue.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Eh bien oui, moi je fais grève, mais je ne manifesterai pas. Je fais grève pour deux raisons, parce que je reste convaincu qu'il y a d'autres solutions que de réformer les retraites d'une part, et qu'à supposer qu'on passe cette réforme, le système d'un point dont la valeur est fixée discrétionnairement, soit par le gouvernement, soit par un organisme théodule dont les membres seront de toute façon nommés par un gouvernement, celui-là ou un autre, peu importe lequel, c'est extrêmement dangereux. On a vu ce que ça donne en Suède. Par contre, je n'irai pas manifester parce qu'en France, les manifestations, 9 fois sur 10, elles dégénèrent en vitrines brisées, en voitures brûlées. Okay, ensuite, c'est des gaz lacrymogènes, c'est des matraques des CRS. Donc, faire grève, oui. Manifester, non.
Merci beaucoup, André, pour votre appel depuis Strasbourg. Il a raison, André, de souligner ce point-là. J'allais y venir avec vous parce que le gros point d'interrogation aussi à partir de jeudi, c'est effectivement la violence.
Les magasins sont fermés sur le cortège.
Exactement.
C'est un pays violent, la Gérard France. Carreau. On l'a vu maintes fois à travers l'histoire. Et à partir du moment où on va lâcher dans les rues des dizaines de milliers, peut-être même certains endroits, plus que ça, des centaines de milliers peut-être de personnes vont se retrouver avec aucune possibilité de contrôle des manifs, avec toutes les possibilités au monde d'avoir les casseurs d'ici
et d'ailleurs. Il n'y a plus la solidité des services d'ordre.
Il n'y a plus les services d'ordre, il n'y a plus l'encadrement.
Donc, il y a
une vraie crainte, je pense, légitime.
Parce que Charles Villeneuve, il y a l'épisode des Gilets jaunes. Oui. Ça a commencé en novembre dernier, ça va faire un an.
Tout à fait.
Donc on a ça très frais dans les mémoires. Et évidemment, du côté du gouvernement, on n'a qu'une crainte, c'est ça.
Ne serait-ce que l'épisode de la place d'Italie, la dernière,
le mémorial
du maréchal adjoint de l'armée d'Italie, etc., qui a été pressé. Bon, ils craignent ça, indéniablement. Simplement, les prévisions, si vous voulez, les dernières prévisions sont quand même intéressantes à entendre. À peu près compte une mobilisation de 300 000 en France et de 30 000 manifestants à Paris. C'est ça la prévision.
Je pense que si c'est ça, ça veut dire qu'il y aura un relatif échec du grand mouvement. Et je pense, moi personnellement, qu'il y aura beaucoup plus de monde que ça.
Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est quand même historique ce qui va se passer. Le Rassemblement national sera aux côtés du PS pour manifester, là où la CFDT, par exemple, ne parle pas encore d'une seule voix. Donc, on va quand même assister à quelque chose qui est de l'ordre pratiquement du jamais vu, si ce n'est 95.
Oui, mais plus justement des gens d'intérêts différents, d'idéologies différentes se retrouvent à manifester, plus les risques sont grands d'agitation, enfin de violence et de perturbation.
Oui. Ils sont d'idéologies différentes, mais la seule chose qu'on peut quand même leur reconnaître, c'est que ce soit le Rassemblement national ou la France insoumise, ils ont toujours été d'accord, notamment le Rassemblement national, pour que la retraite soit à 60 ans. C'est vrai qu'on entend beaucoup qu'ils viennent récupérer pour ne pas se laisser déborder sur la gauche, mais sur le thème des retraites, ça a toujours été au Rassemblement national, la défense des petites retraites et l'assurance d'une retraite qui n'arriverait pas trop tard, en tout cas la promesse qu'on ne reculerait pas la jeune par la retraite. Donc, ils ne sont pas, ça va poser sûrement un petit souci d'image de défiler à côté, mais ils ne sont pas incohérents, chacun dans leur case, à être...
Mais ce qui rend, Emmanuel, difficile, moi, je trouve, l'affaire, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas de texte arrêté de la réforme.
Ah bah
c'est
sûr,
donc compliqué de trouver une réforme à partir de là. Sur quoi tu vas négocier? Et si tu n'as pas de projet arrêté, c'est quand même assez difficile.
Avant toute chose, le 5, pour ceux qui vont vraiment manifester contre la réforme des retraites, ils vont manifester avant tout contre toute idée de réforme. C'est-à-dire même pas contre la réforme qui va être proposée par le
gouvernement. C'est ce que disait notre auditeur, d'ailleurs. Il était contre la réforme.
Ils ne veulent pas de la réforme.
Mais pourquoi un jour, il faudra quand même qu'on sache pourquoi le président de la République, de retour de vacances, est allé à la télévision, à France 2, pour dire, alors que M. Delevoye, depuis des mois, avait préparé le terrain à un âge pivot, l'âge un pivot de la retraite, etc. Oui. Tout d'un coup, le chef de l'État dit bah non, c'est pas mon avis, on va faire autre chose. Et c'est à partir de là, vous regarderez le film, c'est à partir de là
Ce qui est fou, c'est comment il a réussi à crisper les positions. Parce que je vous rappelle que Jean-Paul Delevoye avait réussi à aller faire un débat à la Fête de l'Humanité avec Philippe Martinez, patron de la CGT, et que c'est le seul ministre qui avait réussi à venir. Et bon, je ne peux pas dire qu'il s'était fait applaudir, bien loin de là.
Mais ce sont les odeurs fortes de la Provence, peut-être, à partir de... Évidemment, du fort de Brégançon.
Merci en tout cas les grandes voix. On va se retrouver évidemment demain ici même pour faire le point sur la situation parce que les perturbations auront commencé. On se retrouve nous à 18h30. Donc on sera vraiment là dans les débuts, dans le démarrage. Mais on aura déjà une couleur de ce qu'on peut s'apprêter à vivre dans les prochains jours. Merci beaucoup Gérard Carreau, Charles Villeneuve, Emmanuel Duteil. Merci à vous.
Merci.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Dans un instant, c'est le journal de 19h de Sébastien Krebs à la une de l'actualité. Ce soir, on y revient dans le détail. On vous propose un point complet sur toutes les catégories où cela va coincer demain.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours sur Europe 1 jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir à suivre, Nathalie Lévy.
Un programme complet, détaillé si vous le voulez bien. 19h10, l'invité politique, le secrétaire général des Républicains et député du Lot, Aurélien Pradier, dans ce studio au micro d'Aurélie Herbemont. 19h20, Europe 1 sur les 5 continents, direction les États-Unis pour observer concrètement les enjeux du changement climatique. On parle de ça bien entendu à l'occasion de la COP25 qui s'était lancée hier à Madrid. Et puis à 19h30, restez à notre écoute un invité exceptionnel pour nous accompagner jusqu'à 20h. Bruno Solo, vous le connaissez bien sûr, c'est Caméra Café, mais pas seulement. Il y a des surprises chez Bruno Solo. C'est un personnage à multiples facettes. La série documentaire historique dont il est la voix s'appelle La Guerre des Trônes sur France 5. Vous saviez ça? Un peu de détente donc, et d'histoire aussi. C'est un plaisir de partager ces moments-là aussi avec vous.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
La vie des usagers va être extraordinairement perturbée. La situation est grave et je pense que le gouvernement doit prendre toutes ses responsabilités.
Les Français face au jeudi noir, paralysie des dans les transports en vue. 90% des trains annulés, très peu de TER, 11 lignes de métro fermées à Paris.
Nécrois gammés sur une centaine de tombes, nouvelle profanation d'un cimetière juif en Alsace.
Dans ce journal également, l'égérie du mouvement de la jeunesse pour le climat, Greta Thunberg, de retour en Europe pour la COP25. Et puis on ira à Angers, coup d'envoi à l'instant de la 16e journée de Ligue 1. Les Angevins reçoivent l'OM.
Anissa, la tendance météo?
Débrouillard demain matin, du soleil, grand et beau soleil demain après-midi et des températures en nette baisse. C'est le programme pour demain. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
C'était attendu, c'est confirmé ce soir. La mobilisation jeudi contre la réforme des retraites s'annonce massive, en particulier dans les transports. Prévisions annoncées par la SNCF et la RATP. Aurélien Fleureau, avec un chiffre extrêmement impressionnant, 90% des trains sont tout simplement annulés pour cette journée de jeudi.
Oui, et c'est pour ça que la SNCF conseille tout simplement aux voyageurs de reporter ou d'annuler leur déplacement, ou éventuellement de se tourner vers une solution alternative, covoiturage, vélo, location de voiture par exemple. Et le chiffre à retenir, c'est bien un train sur 10. Il est valable pour les TGV, les intercités et pour le réseau transilien en Ile-de-France. Et ce sera même encore pire sur les TER, 3% de trains seulement, avec 20% des dessertes habituelles assurées par des bus. Donc avec une moyenne aussi basse, eh bien cela veut dire que certaines lignes n'auront pas le moindre train en circulation, par exemple pour les intercités entre Nantes et Lyon, ou sur la ligne Caen-Le Mans-Tours, et puis trafic TER quasi nul en Occitanie et en Bretagne. En ce qui concerne la RATP, là aussi, la mobilisation est massive. 11 lignes de métro fermées à Paris, service minimum aux heures de pointe avec un train sur 3 ou sur 4 sur les lignes 4, 7 et 9, ainsi que sur les RER A et B. Les lignes automatiques, la 1 et la 14, évidemment, fonctionneront, mais avec un risque de saturation. Pour les trams et les bus, là, ce sera 1 sur 3. Et en tout cas, du côté des deux entreprises, SNCF et RATP, on s'attend à ce que le trafic reste très perturbé pendant plusieurs jours.
Voilà, prévision valable pour l'instant pour jeudi. Toute la question, c'est de savoir du coup si ce niveau très élevé va se maintenir les jours suivants. On connaîtra les prévisions au fur et à mesure.
Et soyez imprudents parce que tout démarre dès demain 19h. Les usagers en tout cas se chargent des plans B et espèrent que cela ne durera pas trop longtemps. Écoutez Bruno Gazo, le président de la Fédération nationale des usagers des transports.
La vie des usagers va être extraordinairement perturbée, complètement bouleversée. Les alternatives qui sont proposées
je ne veux pas dire, c'est bien de les proposer, mais ça reste tout à fait marginal par rapport aux besoins. On ne remplace pas un transport public qui transporte des millions de personnes tous les jours par un peu de covoiturage, un peu d'autopartage et un peu de vélo. Enfin, c'est très marginal et ça ne répond pas au problème. Donc la situation est grave et je pense que le gouvernement doit prendre toutes ses responsabilités en faisant des propositions, sans doute plutôt que ce qu'il prévoyait de faire. Du côté syndical, la démonstration de force est suffisamment claire pour que je considère qu'il n'y a peut-être pas forcément nécessité de la prolonger très très longtemps. Je veux dire, le signal est clair. Ça va, le gouvernement devrait l'entendre, j'espère qu'il va l'entendre, et qu'on va pouvoir quand même réoffrir un service public pour que la vie continue.
Bruno Gazol, président de la Fédération nationale des usagers des transports, joint par Olivier Samin. Dans les aéroports, la Direction générale de l'aviation civile annonce que 80% du trafic sera maintenu. Air France annule 30% de ses vols domestiques et 15% de ses moyens courriers.
Et puis les écoles pourraient être complètes. 70% des enseignants du primaire en grève, c'est ce qu'a annoncé le syndicat du SNUPP. Tout à l'heure, on était en direct et puis 4 écoles sur 10 qui devraient rester fermées.
Mais s'agissant des dépôts pétroliers, la plupart des blocages sont levés ce soir. Il n'en reste qu'un seul, celui de Lorient. Cela veut dire que la perspective d'une pénurie de carburant semble s'éloigner.
Venons-en maintenant à ces profanations en Alsace, tag antisémite et croix gammée dans deux villages du Bas-Rhin.
Sur la mairie et la synagogue de Schaffhouse-sur-Zorne et sur une centaine de tombes du cimetière juif de Westhoffen, colère et écœurement du grand rabbin du Bas-Rhin, Harold Veil.
C'est un spectacle de désolation sans cette tombe taguée de croix gammée. C'est quelque chose d'épouvantable.
Qu'est-ce que vous ressentez ?
De la colère, de l'écœurement, du dégoût, c'est beaucoup de sentiments qui se mêlent.
Il y a un sentiment d'accumulation aussi, avec Quatsenheim il n'y a pas si longtemps, et puis d'autres événements éparpillés en Alsace.
Voilà, exactement, on l'a dit, il y a eu Quatsenheim il y a quelques mois, il y a eu Herrlisheim juste avant, c'est la troisième profanation de grande ampleur en moins d'un an, et puis des actes de profanation très réguliers dans les écoles, sur les maisons des élus, sur certains bâtiments publics ou certaines anciennes synagogues. Donc nous comptons vraiment sur la gendarmerie pour mener ces recherches à bout, et également, je le dis, sur le soutien de la population, parce qu'il faut que les gens parlent. Ceux qui ont vu quelque chose sur ces dizaines et dizaines de profanations, eh bien, n'aient pas peur de parler, je crois que c'est très important.
Propos recueillis par notre envoyé spécial sur place, Arthur M. Bachet, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dénoncé dans un tweet des actes abjects et répugnants.
Deux informations en provenance de l'étranger. D'abord Emmanuel Macron au sommet de l'OTAN qui enchaîne des entrevues plutôt tendues. Tout à l'heure c'était avec Donald Trump, à présent avec le président turc Erdogan. Emmanuel Macron qui accuse la Turquie de travailler parfois avec des intermédiaires de l'organisation État islamique et qui reproche à la Turquie de combattre les Kurdes alliés de la coalition internationale en Syrie. Et puis un ingénieur français de Thalès a été tué par balle hier soir en pleine rue dans un quartier huppé de Bogota par un tueur qui a ensuite pris la fuite. Il a semble-t-il été visé, cet ingénieur français de 45 ans qui était en mission à Bogota, donc pour le groupe Thalès.
Elle est de retour en Europe, celle qui incarne le mouvement des jeunes pour le climat. La jeune Suédoise Greta Thunberg a retraversé l'Atlantique dans l'autre sens, cette fois à nouveau à la voile pour éviter l'avion. Elle participe à Madrid à la COP25.
Et elle a eu droit à ce comité d'accueil aujourd'hui à Lisbonne sous les applaudissements Henri de Laguérie, de nombreux militants.
Oui, près de 500 militants pour le climat l'attendaient sous un soleil éclatant, vêtue d'une salopette bleu marine de skipper, souriante mais un peu intimidée. La jeune Suédoise a remercié le couple d'Australiens qui lui a permis de revenir en Europe. Elle a expliqué ensuite qu'elle n'avait eu le mal de mer que lors des premiers jours. Ce voyage a été une expérience unique.
Après un voyage comme cela, dans l'isolement pendant 3 semaines, on devient très relax, on déconnecte de tout et de tout le monde.
L'ado suédoise est déterminée à poursuivre son combat, n'en déplaise à ses détracteurs qui la réduisent souvent à une enfant en colère.
Je pense que les gens sous-estiment la force des enfants en colère. En fait, nous sommes en colère parce que nous sommes frustrés, et ce pour une bonne raison.
Pour les jeunes activistes, Greta Thunberg est une véritable icône. On voit d'ailleurs ici son visage sur des t-shirts et des sacs en tissu. Pour Joao, elle a permis une prise de conscience.
Nous sommes ici pour le soutien de cette jeune fille qui nous apporte l'espoir.
Et finalement, Greta Thunberg se reposera quelques jours ici avant de rejoindre Madrid et la COP25 d'ici vendredi.
Henri de Laguérie en ligne de Lisbonne pour Europe 1.
Et justement, à l'occasion de cette COP25, on vous fait voyager chaque soir. Demain sur la planète, on sera aux États-Unis et puis à Madrid, bien sûr.
Le foot ce soir avec l'OM, le deuxième du championnat qui se déplace chez le troisième Angers. Loïc Folliot, vous êtes au stade Raymond Coppa. Le coup d'envoi vient tout juste d'être donné.
Absolument, 5 minutes de jeu, 0-0 l'OM. Vous l'avez dit, en terre angevine pour la passe de 5. Un nouveau succès qui permettrait aux hommes de Villas-Boas de conforter leur statut de dauphin du PSG, même d'accentuer la pression sur les poursuivants. Toujours privé de Florian Thauvin, eh bien, l'entraîneur olympien aligne ce soir son équipe type avec Valentin Rongier en métronome. Et puis Payet et Benedetto en atout offensif. En face, Angers peut confirmer son statut de surprise de début de saison. S'il parvient à s'imposer, le SCO en cas de succès reviendrait tout simplement à un point de l'OM. 0-0 entre Angers et Marseille après 6 minutes de jeu.
Loïc Folliot, merci. Deux autres matchs en cours, Bordeaux-Nîmes et Brest-Strasbourg, 0-0 dans les deux cas à 21h tout à l'heure. Lyon-Lille, et puis vous vous souvenez d'Amandine Henry, la capitaine des Bleus, les Bleus féminines du foot. Eh bien, autre activité, elle va présider cette année le jury des Miss France. Ça a été annoncé aujourd'hui, cérémonie le 14 décembre.
Ah, c'est le grand saut.
Voilà.
Ah bah voilà, écoutez, c'est intéressant. Hein, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Merci Sébastien. Retour à 19h30. Anissa, du brouillard, mais aussi du soleil et du froid. Le programme
voilà,
de demain.
C'est ça, vous avez très bien résumé la journée de Merci. Demain. Sur l'ensemble du pays, c'est un temps sec, ensoleillé et froid. Une vraie journée d'hiver. Alors la journée commence avec beaucoup de brouillard sur toute la moitié nord. Sur les Pyrénées, les nuages seront plus présents et épais avec de la pluie. En Bretagne, Normandie, Val-de-Loire et région parisienne, ces brouillards matinaux resteront assez persistants. En Corse aussi, le ciel est assez couvert demain. D'ailleurs, sur le Cap Corse et les côtes varoises, le vent de nord-est va souffler fort jusqu'à 90 km/h. Et sinon, si je n'ai pas cité votre région, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que vous serez sous le soleil demain tout au long de la journée. Alors, sous le soleil, certes, mais il va falloir vous couvrir. Les températures, elles sont de plus en plus froides. Moins 5 dans l'Allier demain, moins 4 à Nevers, moins 2 à Strasbourg et à Lyon, 0 degrés pour Paris, 2 à Nîmes dans l'après-midi. Après-midi, nous aurons 3 à 18 degrés en moyenne demain.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Aurélie Herbemont, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. Vous avez un invité ce soir qui va s'installer dans un instant.
Oui, Aurélien Pradier, député du Lot, secrétaire général de LR. On va parler des retraites alors que la grève s'annonce massive jeudi.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1. À la suite de votre grand journal du soir et place à l'interview politique.
Avec Aurélien Herbemont et votre invité ce soir dans ce studio, le secrétaire général des Républicains et député du Lot, Aurélien Pradier. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Aurélien Pradier.
Bonsoir.
Emmanuel Macron veut faire ce que la droite n'a jamais fait, supprimer les régimes spéciaux de retraite. Pourquoi vous ne le soutenez pas ?
Parce que Emmanuel Macron est devenu un élément urticant pour la société française. Ce qui s'annonce le 5 décembre, c'est d'abord l'échec de la méthode d'Emmanuel Macron. Jamais par le passé, même lorsque la droite a réformé, nous n'avons eu une telle mobilisation en perspective de tous les corps de la société. Et au fond, c'est d'abord l'échec de la méthode d'Emmanuel Macron. Mesurez l'écart abyssal qu'il y a entre la promesse initial de son élection de réconcilier tous les Français et le caractère anxiogène de l'ensemble de ses prises de position. Il réussit le défi jeudi de mettre tout le monde dans la rue alors même qu'il n'y a pas de réforme précise. Il y a un problème avec la méthode d'Emmanuel Macron et de son gouvernement.
C'est pas la réforme que vous remettez en cause, mais juste la méthode.
C'est beaucoup plus que ça. D'abord, il faut dire que la méthode est un échec. Pardon de le dire, nos concitoyens savent qu'Emmanuel Macron porte une vision injuste de la société. Voilà pourquoi il n'arrive pas à réformer. Parce qu'il est à chaque fois suspect de vouloir réformer en étant injuste. Et sur cette réforme-là, c'est le cas. Nous avons une ligne très claire chez les Républicains. D'abord, nous avons fait des réformes sur la question des retraites. Et donc
vous
nous
n'avez jamais supprimé les régimes spéciaux.
Non, mais en revanche, vous conviendrez que nous avons déjà fait beaucoup de boulot sur ce sujet qui n'est pas un sujet simple. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que cette réforme est mal foutue. Il faut la revoir. D'abord, ce que nous voulons, c'est supprimer les régimes spéciaux. Nous l'avons toujours dit et nous continuons à le dire avec un calendrier précis. La clause du grand-père, portée par Emmanuel Macron, c'est la clause de la lâcheté. Nous n'en voulons pas. Mais de la même manière...
Ils disent maintenant que eux non plus, ce ne sera pas la clause du grand-père.
Vous avez raison. Ils changent d'avis à peu près toutes les 48 heures. Nous ne changeons pas d'avis. Nous disons que nous sommes opposés au régime par points qui est prôné par Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que le régime par points, c'est un régime qui cesse la mutualisation, la mutualité entre les différents contributeurs au système de retraite. Et nous ne voulons pas de ce système-là par points qui est un système injuste. Ce que nous disons aussi, à la différence d'Emmanuel Macron, c'est que nous voulons conserver les régimes qui aujourd'hui fonctionnent, les caisses qui aujourd'hui gèrent les retraites de nos avocats, de nos infirmières il n'est pas question de punir ceux qui gèrent bien les choses. Et nous disons aussi très sereinement qu'il faut que l'âge de départ à la retraite soit décalé parce que l'espérance de vie augmente. Vous savez, j'ai 33 ans. Moi, la question que ma génération se pose, ce n'est pas de savoir à quel âge nous partirons à la retraite, c'est de savoir si nous aurons un système de retraite. Et donc, il est évident que ma génération acceptera de travailler un peu plus.
Alors, travailler un peu plus, c'est quoi? C'est 64 ans, 65 ans, et à quel horizon pour LR Aurélien Pradier?
Aujourd'hui, c'est 64 ans qui, pour nous, est notre horizon. Mais je pose une condition à cela, qui est un des marqueurs de ce que la droite républicaine a fait en 2010 sur la réforme des retraites, qui est la pénibilité. On ne peut pas traiter tout le monde de la même manière. Selon que vous avez été maçon, artisan, que vous avez travaillé dehors dans des conditions très difficiles, que vous avez bossé à l'usine en 3-8 ou que vous avez travaillé dans un bureau, vous n'avez pas le même niveau de pénibilité et donc, je le dis, vous ne devez pas partir au même moment à la retraite. Ça, c'est une mesure de justice. Et c'est la droite républicaine qui l'a fondée dans la loi en 2010 avec la réforme portée par Éric Woerth. Dans les jours qui viennent, nous ferons de nouvelles propositions sur la question de la pénibilité parce que c'est une mesure de justice sociale qui est conforme à l'idée que la droite se fait du travail et donc de la retraite.
Un ancien président de la République, issu de votre famille politique, Nicolas Sarkozy pour ne pas le citer, avait dit il y a quelques années, désormais quand il y a une grève, personne ne s'en aperçoit depuis sa loi sur le service minimum. Je dis quand on voit les prévisions SNCF et RATP, on se dit que beaucoup de Français vont s'en rendre compte. Est-ce qu'il faut à l'avenir, pas pour jeudi évidemment, revoir, améliorer le fonctionnement du service minimum?
Il faut nous poser la question, évidemment, ça ne fonctionne pas bien aujourd'hui. Et moi, je suis un républicain, l'expression syndicale, l'expression de la grève, c'est un droit fondamental. Et donc je dis, si nos concitoyens veulent ce jeudi manifester, ils ont tout à fait le droit de le faire. En revanche, on ne peut pas rentrer dans une position de blocage continu du pays, parce que ça ne sert personne, ni les manifestants, ni l'ensemble de nos concitoyens. Vous savez, je dis, ceux qui sont les plus pénalisés par le blocage, ce ne sont pas les nantis de notre pays, ce sont les classes modestes, ce sont les milieux de cordée ou les derniers de cordée qui ne pourront pas prendre les transports en commun. Donc je pense que toutes les réflexions qui permettent d'assurer un service minimum garanti, plus ferme qu'aujourd'hui, sont les bienvenues.
Ça pourrait faire partie des choses que la droite pourrait faire quand elle reviendra au pouvoir?
Non,
si elle, revient au pouvoir,
elle le fera avant. Parce que notre responsabilité
avant,
nous le ferons en faisant des propositions.
Ouais.
Parce que notre responsabilité à droite n'est pas d'être la meilleure opposition, mais d'être une meilleure formule de construction. Ce que nous devons faire aujourd'hui à droite, c'est proposer des choses crédibles pour que les Français nous refassent confiance. Et donc je vous dis que ces propositions-là, nous les ferons avant de revenir aux responsabilités pour que les Français nous regardent à nouveau avec respect et avec confiance.
Alors, pour que les Français vous regardent à nouveau avec respect et confiance, pour reprendre vos termes, on vous voit beaucoup, Aurélien Pradier, vous occuper de sujets qui ne sont pas forcément les sujets sur lesquels on entend beaucoup la droite, sur les questions de handicap, sur les questions de violence conjugale. Est-ce que c'est en diversifiant, en sortant du diptyque, disons, immigration-fiscalité, que la droite peut relever la tête et à nouveau susciter l'adhésion des électeurs?
La droite relèvera la tête en disant la vision qu'elle a de la société. Et une vision de la société ne se limite pas aux seuls sujets régaliens qui sont évidemment importants et sur lesquels nous sommes crédibles. La vision de la société, elle passe aussi par les questions du handicap, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, par la question des violences conjugales, par la question des salaires, par la question de l'alimentation, par la question du progrès, de l'égalité des chances. Bien, tous ces sujets, ce sont les sujets sur lesquels les Républicains, nous allons travailler dans les semaines qui viennent avec six grandes causes qui vont nous permettre de dire aux Français voilà quelle est notre vision de la société. Vous savez, la droite, c'est une grande maison. Et depuis quelques années, nous avons seulement ouvert la lumière dans quelques-unes des pièces de la maison. Nous allons remettre de la lumière partout à droite pour que les Français se disent, entre le projet de société injuste d'Emmanuel Macron et le projet de société chaotique de Marine Le Pen, il y a un chemin de réconciliation, de justice sociale et de respect qui est celui de la droite républicaine.
L'idée, c'est surtout de ne pas éteindre la lumière chez LR. Un petit mot des municipales, Aurélien Pradier. Aujourd'hui, on apprend que Patrick Balkany, qui est donc incarcéré depuis sa condamnation pour fraude fiscale, souhaite mener la liste à Levallois pour les municipales de mars. Est-ce que LR lui accordera l'investiture?
Je ne pense pas. Soyons très honnêtes, il y a ce que la loi permet de faire et puis il y a ce que la morale devrait nous pousser à faire. C'est une autre époque, celle de M. Balkany. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que ce qu'il a apporté à la ville de Levallois est absolument immense. Mais il y a des moments où les pages doivent sûrement se tourner. Mais c'est à la démocratie d'en juger. Vous savez, au fond, à la fin du fin, ce sont les habitants de cette ville qui décideront. Et c'est à eux de le faire.
Justement, tant que Patrick Balkany a des recours, il n'est pas condamné définitivement à de l'inéligibilité.
Oui, vous avez raison. Il y a la loi et il y a la morale.
Pour vous, la morale doit prédominer dans cette,
en tous les
dans
cas,
cette affaire de Levallois.
Je souhaite à Patrick Balkany qu'il finisse sa belle carrière politique mieux que dans cette circonstance-là.
Un tout dernier mot peut-être. Demain, les députés qui sont engagés contre la privatisation d'Aéroports de Paris se réunissent. A priori, vous allez atteindre le million de signatures pour le référendum d'initiative partagée. Ils en font 4 700 000. Vous dites quoi, Emmanuel Macron? On a 1 million. Faites le référendum, monsieur
le
président.
On dit à Emmanuel Macron qu'il avait pris un engagement qui était d'abaisser à 1 million le seuil de déclenchement du référendum. Donc on lui dit qu'il est le temps de se conformer à ses engagements. Mais d'un mot rapide, la droite républicaine a une vision de l'économie très claire. Elle a toujours considéré que l'État avait un rôle stratégique à jouer dans l'économie. Et donc lorsque la droite républicaine s'engage contre la privatisation d'Aéroports de Paris, nous sommes conformes à l'idée que nous faisons d'un État fort dans une économie libre. C'est tout à fait conforme à notre ADN.
Eh bien, merci beaucoup Aurélien Pradier d'avoir été mon invité.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy. Restez avec nous à 19h30, un invité qu'on adore. Bruno Solo sera avec nous jusqu'à 20h. On va parler notamment de la série documentaire historique dont il est la voix, La Guerre des Trônes, qui revient sur France 5.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours sur Europe 1, jusqu'à 20h. Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy.
Demain sur la planète, c'est notre rendez-vous spécial toute la semaine à l'occasion de la COP25. On est très concret hein, pour vous. On vous emmène donc sur les 5 continents et on vous montre les enjeux de ce changement climatique. 5 jours, 5 continents, on stoppe ce soir aux États-Unis. Bonsoir Xavier Yvon.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors vous êtes rendu à Yellowstone dans le nord-ouest du pays. C'est en fait le plus vieux parc naturel de la planète, classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Xavier, d'abord, faites-nous rêver un peu. Ça ressemble à quoi Yellowstone, la photo qui va bien ?
Ah bah, une carte postale justement de l'Amérique sauvage. Dès l'entrée, je suis tombé sur un élan blessé entouré de coyotes affamés. Dans un virage, soudain, vous voyez une horde de bisons en train de paître, le tout dans un paysage majestueux de collines et de montagnes enneigées.
Alors pourquoi le parc de Yellowstone est si important à observer pour comprendre le réchauffement ?
Bah parce que c'est un sanctuaire naturel resté intact pendant des millénaires, l'un des seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent remonter le temps. Cathy Whitlock, par exemple, de l'Université du Montana, elle analyse des sédiments, des lacs, et ainsi elle connaît le climat de Yellowstone sur les 50 000 dernières années.
À la fin de l'âge de glace, le Yellowstone s'est réchauffé de 4 degrés Celsius. Mais ça a pris plusieurs milliers d'années. Ce qu'on voit maintenant, c'est le même réchauffement, mais en années, en dizaines d'années, c'est du jamais vu. C'est le diagnostic de ce qui se passe partout sur la planète.
Alors Xavier, comment voit-on concrètement, comment vous avez vu de vos yeux dans le parc que la température montait ?
Alors pour ça, il faut embarquer dans la voiture de Nathan Varley, qui est guide pour touristes. Il parle des lacs asséchés, des espèces d'oiseaux disparues, des arbres qui ne poussent plus. Nathan ne manque pas d'exemples et son ami biologiste Mike Tersek, lui, montre une vaste étendue jaune des plantes invasives qui prolifèrent à la chaleur.
C'est très inquiétant. Si cette herbe envahit la partie nord que nous venons de traverser, là où les animaux vivent l'hiver, ça ferait beaucoup de dégâts dans l'écosystème. Une végétation moins nourrissante, ça veut dire moins d'élan et autres herbivores, donc moins de prédateurs comme les loups, ça fera un effet domino.
Et cet effet domino, il est déjà visible alors ?
Ah oui, il suffit de lever les yeux à 3000 mètres d'altitude et là, il y a une forêt qui a été presque entièrement détruite. Avec le réchauffement, des insectes tueurs d'arbres ont survécu à l'hiver et ils ont pu s'attaquer aux pins à écorce blanche des arbres que Jesse Morgan étudie depuis des années.
Vous rentrez dans ce paysage étrange et gris d'arbres morts, toujours debout. Ce qui était une forêt verte et vivante avec des écureuils, des oiseaux et des grizzlies est devenu calme comme un cimetière, une forêt fantôme.
Et cette forêt donc ne nourrit plus la faune, mais surtout, elle ne fait plus d'ombre. Et comme ça, ça n'a l'air de rien, mais c'était essentiel pour conserver la neige tout au long de l'année. Désormais, elles font plus vite au printemps. Or, la neige, c'est le réservoir d'eau de la région, notamment pour irriguer les champs. C'est ça l'effet papillon du réchauffement climatique.
Ah là là. Voilà le tableau tout à fait édifiant donc, que vous nous avez proposé. Merci beaucoup Xavier Yvon, en direct des États-Unis pour Europe 1. Merci à vous. Direction Madrid à présent. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir.
C'est vous qui suivez cette COP25. Vous êtes tous les soirs de la semaine avec nous. Pourquoi, Virginie, est-il si important de préserver un maximum de biodiversité ?
Alors, c'est pas seulement un caprice d'amoureux de la pigrièche ou du tigre du Bengale. La biodiversité, les animaux et les plantes nous permet de survivre et même de bien vivre. Ce sont des services que la nature nous rend pour nous nourrir, boire, nous loger, etc. Donc, si la biodiversité se dégrade, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, c'est un cercle vicieux. L'un des principaux fléaux du moment, c'est la dégradation des lieux de vie des animaux. La main de l'homme a déjà modifié les trois quarts de la terre. Et donc, les prédateurs, par exemple les loups, les bisons, les gorilles, n'ont plus assez de terres de bonne qualité pour vivre, donc ils disparaissent. Conséquence, les herbivores dont ils se nourrissaient pullulent, ils consomment beaucoup plus de plantes que d'habitude, résultat une raréfaction des insectes qui se nourrissaient eux-mêmes de ces végétaux, et les insectes servent aussi à polliniser les plantes que nous mangeons. Même chose dans les mers, les chercheurs observent des espèces de poissons qui ont trop chaud et qui remontent vers des eaux plus au nord pour pouvoir survivre.
Et pourquoi, donc, vous nous dites qu'il est important de préserver un maximum cette biodiversité. Comment, maintenant, on peut freiner cet effondrement de la biodiversité ?
Eh bien, tout ça dépend de nous, des choix qu'on fait maintenant. Si on continue à polluer sur la même tendance qu'aujourd'hui, c'est 50% des espèces qui risquent de disparaître dans les régions les plus riches en faune et en flore d'ici seulement 50 ans. Mais si on décide de faire de gros efforts pour contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés, eh bien, on peut réduire leur disparition à 20 à 25% des espèces.
Virginie Salmen, spécialiste écologie pour Europe 1, merci à vous. Et demain, rendez-vous, bien entendu, pour suivre cette COP25.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Dans un instant, il est avec nous en direct, Bruno Solo. Mais d'abord, le rappel des titres de Sébastien Krebs qui va nous rejoindre, bien sûr.
Vous écoutez votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
L'info, c'est avec vous, Sébastien Krebs.
Paralysie attendue dans les transports jeudi. La SNCF annule 90% des trains. Seulement 3% des TER vont circuler en Ile-de-France, Transilien et RER, essentiellement aux heures de pointe. La RATP ferme 11 lignes de métro. Toutes les prévisions, vous les retrouvez en détail sur Europe1.fr. La profanation d'un cimetière juif près de Strasbourg, des tags antisémites et des croix gammées trouvées sur une centaine de tombes à Westhoffen. Un ingénieur français de Thalès assassiné par balle en pleine rue à Bogota. Il était en mission en Colombie. À presque 85 ans, Bernard Pivot se retire de l'Académie Goncourt. Il en était membre depuis 15 ans et l'a présidé depuis 2014. Et puis le foot, 3 matchs en cours pour la 16e journée de Ligue 1. L'OM mène à Angers 1-0, 0-0 entre Bordeaux et Nîmes. Et Brest mène face à Strasbourg 1-0. Ce soir à 21h, Lyon reçoit Lille.
Merci Sébastien. Et vous, vous revenez demain dès 18h en direct. Anissa, on va avoir froid demain pour rester correct.
Oui, il va falloir se couvrir effectivement demain avec des températures qui sont en chute libre, avec de plus en plus de gelées matinales. Moins 5 dans l'Allier à Montluçon, moins 4 à Nevers, moins 2 à Strasbourg et à Lyon, 0 degrés demain matin à Paris, 2 degrés seulement à Nîmes. Alors les températures sont en chute libre, en revanche dans le ciel c'est plutôt une belle journée qui nous attend demain. Sur la moitié nord, beaucoup de grisailles, notamment sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. Ces grisailles, elles vont se dissiper au fil des heures. Attention, des brouillards qui pourront être givrants par endroits. Dans le sud-ouest, là les nuages vont persister sur une bonne durée de la journée, avec de la pluie même sur le Languedoc-Roussillon. Partout ailleurs, c'est du grand et beau soleil. Profitez-en demain. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, et on va parler histoire avec votre invité jusqu'à 20h.
Et oui, parce que en fait, on l'attendait sur plein de sujets, et puis peut-être un peu moins sur celui-là. Et en fait,
vous, oui, pas moi.
Ah, mais bien sûr, parce qu'il va tout nous dire dans une seconde. C'est Bruno Solo, vous l'avez peut-être reconnu sa voix, Bruno Solo qui est notre invité ce soir avec... avec ce livre, La Guerre des Trônes, la véritable histoire de l'Europe et la série qui va avec. Bienvenue Bruno Solo, merci d'être
merci,
là.
Merci,
la série qui va avec, qui est devenue un livre illustré, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là que ça s'est passé.
Oui, en fait, ça, c'est le livre de la première saison. Là, cette année, c'est la troisième saison. Donc la première saison, on évoquait...
De la série.
De la série, on évoquait la guerre de 100 ans et puis un petit peu aussi... François Ier et Charles Quint. Et voilà, et donc le but, c'est avec Larousse et France 5 et Europe 1, puisque vous êtes
partenaire. Mais oui, on est partenaire de cette saison 3.
Voilà, puisque d'éditer chaque année le livre qui correspond à la série qui passe à la télévision. La série commence le 20 décembre.
Exactement, du 20 décembre au 3 janvier. Voilà. Alors je disais, voilà, on vous attendait sur tout sauf sur ça, mais en fait, si on vous connaît un tout petit peu, d'abord, on sait que vous aimez l'actualité.
Oui.
Et puis, vous aimez, et vous êtes très concerné, vous êtes très engagé aussi, vous aimez l'histoire.
Toujours.
Avec un grand H.
Bon, c'est très difficile de toute façon quand vraiment on aime le présent, quand on aime le monde dans lequel on évolue, si véritablement on est intéressé par ce qui se passe, on doit obligatoirement comprendre un petit peu les raisons, les conséquences, les causes, les actes qui sont souvent inhérents au passé et à notre histoire. Là, regardez comment on a intitulé cette série, c'est La guerre des trônes, la véritable histoire de l'Europe, parce que l'Europe s'est construite depuis toujours. Alors elle s'est construite avec des alliances, des mésalliances, des trahisons, des stratégies, des guerres, beaucoup de sang, effectivement, c'est vrai, mais elle s'est quand même construite. Tous les monarques d'Europe, d'Espagne, d'Angleterre, de France, du Saint-Empire romain germanique, d'Italie, n'ont jamais rêvé que d'unir l'Europe,
bien sûr.
Pas nécessairement d'un point de vue intellectuel, politique, etc., mais de la conquérir. Donc il y a toujours eu l'idée de l'Europe, de toute façon. Après, elle a évolué politiquement et philosophiquement. Oui.
Mais c'est bien parce que je crois qu'on n'a pas besoin. On ne vous arrête pas, en fait, quand vous commencez à parler d'histoire et à parler, évidemment.
Ah bah dès que vous m'interrompez, je m'arrête. Hein, pas de problème.
Non, pas du tout, parce que justement, vous avez cette capacité à faire le lien entre hier et aujourd'hui. Aussi, j'allais dire, les aspérités des personnages. Ah, et on va y revenir dans un instant. Je voudrais quand même qu'on écoute la bande-annonce.
À volontiers.
Bah, alors allons-y, cette saison 3.
Les luttes de pouvoir ont façonné le monde dans lequel nous vivons. À l'aube du XVIIe siècle, une guerre sans précédent va embraser l'Europe.
Je veux la tête d'Henri de Navarre sur un plateau.
Et les grands monarques ne reculent devant rien pour imposer leur dynastie. À travers cette impitoyable guerre des trônes...
Où est-il ? Répondez !
Je vais vous raconter la grande histoire de l'Europe.
Et vous nous racontez la grande histoire de l'Europe, mais avec un ton, avec une gouaille aussi qui va bien, avec une signature Bruno Solo qui n'est pas du tout la même signature que Stéphane Bern.
Non, évidemment, il fallait se distinguer. Et puis, ce n'est pas tout à fait le même but. Stéphane prend des phénomènes d'histoire, les raconte, les illustre, alors que nous, c'est un vrai docu-fiction. Chaque personnage, Henri IV là, en l'occurrence, Louis XIII, Richelieu, Sully, Elisabeth Ière d'Angleterre, Gabriel d'Estrées, tous les personnages qui traversent donc la troisième saison, sont interprétés par des comédiens. La première saison, justement, celle qui est illustrée dans le livre, hein, c'est difficile à suivre, donc le livre, ça représente la première saison.
Le livre, c'est la première saison, et la saison 3 qui arrive à l'écran le 20 décembre.
Dans la première saison, c'est vrai que l'accent avait été mis sur des ressemblances. Mmh. Des ressemblances qui, en plus, sont toujours hypothétiques. Nous, voilà, parce que par rapport à des figurines, des tableaux qu'on a pu retrouver de Louis XI, de Aliénor d'Aquitaine, pour la première saison, par exemple, ou de Saint-Louis. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait quand même envie, puisque les choses sont dites, et que ce qui est dit dans la série par les personnages historiques sont véritablement les propos qu'ils ont pu tenir, et tout, les traces qu'on a de ce qu'ils ont dit sur des épisodes de la guerre, des guerres, des royaumes, etc., des trahisons, par exemple. Et donc, il fallait vraiment que ça soit interprété. Et on a de grands comédiens. On a des gens comme Maxime d'Abbeville qui joue, on a Valéria Cavalli, on a Franck Libert qui joue Henri IV, on a de vrais comédiens.
Alors
donc c'est un peu la différence, c'était un docu-fiction vraiment.
C'est ça, donc la différence elle est là, elle est bien installée et on est quand même, parce que je peux pas ne pas faire le lien, voilà, les trônes de France, les trônes d'Angleterre, on a vu là, nous, en France la tension et on voit demain à partir de 19h comment ça va se traduire dans les rues avec les retraites, on voit qu'on est dans un système aussi avec des ennemis certes en dehors de nos frontières, mais avec des ennemis aussi, ou en tout cas une colère sur le territoire aujourd'hui. On le voit Bruno Solo.
Bah oui, de toute façon, il n'y a pas de raison que c'est tant changé que ça. Hein. On montre l'histoire, nous, dans cette série, au travers, évidemment, de ceux qui l'ont façonné, qui avaient les moyens de la façonner. Les souverains, les reines, les rois, la noblesse. Et effectivement, les premières victimes de ces luttes de pouvoir sont souvent ceux qui la subissent, sont souvent le peuple. Donc effectivement, là, nous, on décide de montrer au travers de ceux qui mènent des guerres, mais on parle aussi de ceux qui les subissent. Mais ça, c'est de tout temps. Aujourd'hui encore, effectivement, il y a ceux qui ont le pouvoir, il y a ceux qui le subissent, qui en subissent les excès, qui en subissent les abus ou les mauvaises interprétations.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous dites c'est normal qu'il y ait mobilisation.
C'est normal qu'il y ait des mobilisations du peuple.
Mais
sauf
là, qu'à typiquement...
une époque, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, il vaut mieux se révolter aujourd'hui, de nos jours, au XXIe siècle, dans un pays comme la France, qu'il valait mieux que se révolter au XVIe siècle. Lorsqu'effectivement, à Paris, il y a eu les révoltes avec la Ligue catholique pour résister à l'entrée d'Henri IV, qui voulait prendre son trône à Paris. eh bien, c'était la famine, c'était les massacres, etc. Oui. Là, voilà la vérité. Donc, évidemment, moi, je suis tout à fait conscient que dans deux jours, le 5, c'est une révolte, que c'est un réveil, que c'est un appel du peuple et tout, qui est légitime et qu'on peut le faire. Il y a quelques centaines d'années, on ne pouvait pas le faire. Donc, remettons les choses dans leur contexte aussi, mais c'est vrai.
Bruno Solo est avec nous en direct ce soir sur Europe 1, La Guerre des Trônes. C'est le livre issu de la série et la saison 3, elle commence le 20 décembre. On en reparle avec lui dans une seconde.
Et vous pouvez vous aussi poser vos questions à Bruno Solo. N'hésitez pas, ça se passe sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou au 3921, votre grand journal du soir jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité Nathalie Lévy. Vous recevez ce soir Bruno Solo pour parler d'histoire, pour parler de la guerre des trônes à travers l'Europe. C'est un livre, mais c'est aussi une série.
Exactement, la série, attention, notez bien, c'est sur France 5, c'est la troisième saison. Hein. Mm-hmm. Vous me dites si je me plante. Ça commence le 20 décembre, ça s'arrêtera le 3 janvier en partenariat avec Europe 1. Donc ça, c'est la série qui cartonne, série documentaire, la guerre des trônes avec votre voix, votre style, votre personnalité, ça fonctionne très bien. Et du coup, ça fonctionne tellement bien que c'est sorti en livre il y a au mois d'octobre. Hein, et donc, la véritable histoire de l'Europe reprise avec les images qui vont bien et très accessible. Hein, c'est ce qu'on disait.
Avec une préface que je signe, aussi. Où je joue sur l'analogie du jeu et des échecs, tout simplement. Et l'échec, dans le mot échec, il y a ça aussi, parce que c'est quand même une succession d'échecs, de défaites et tout. La construction de l'Europe, oui.
On a des auditeurs qui veulent vous parler, Bruno Solo. Alors, Olivier, notamment. Bonsoir, Olivier. Vous nous appelez de Rouen. Bienvenue.
Oui, bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir, Olivier.
Voilà, donc je souhaiterais avoir le sentiment un peu de Bruno sur le fait qu'au moment de la Renaissance, notamment à l'époque de François Ier, les dirigeants des pays qui n'étaient du continent européen étaient des gens qui étaient des érudits d'une certaine façon, de grands mécènes surtout, et il y avait un foisonnement historique, que ce soit peinture, sculpture, musique à l'époque, qui facilitait un peu les échanges entre les pays et un peu aussi la pacification des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui manque dans l'Europe morcelée? Justement des dirigeants qui savent, des dirigeants érudits qui peuvent aller au-delà des simples considérations économiques pour rapprocher les peuples.
Vous imaginez la responsabilité que vous donnez à la réponse que je pourrais vous fournir,
parce
que
quand même,
je pense quand même qu'il y a une certaine érudition. On peut reprocher des orientations, des obédiences, on peut reprocher et discuter, débattre effectivement de par exemple de la politique culturelle de l'Europe, c'est sûr, mais enfin je ne crois pas qu'on puisse soupçonner Angela Merkel ou je ne sais pas, ou même dans une certaine mesure Boris Johnson ou notre président Emmanuel Macron de ne pas être des érudits. Est-ce qu'ils mettent leur érudition au service effectivement du plus grand nombre? Est-ce qu'ils tentent à élever le peuple plutôt que... Voilà, parce que vous savez, Alain disait « mépriser le peuple, bientôt le devenir méprisable ». Et estimez-le, il s'élève. C'est vrai que je ne suis pas persuadé qu'il nous estime à notre juste valeur pour avoir le sentiment qu'on puisse s'élever tous ensemble. Mais enfin, quand même, fondamentalement, pour avoir un peu travaillé sur ces périodes-là au travers de cette émission, et puis par intérêt personnel, je pense qu'il vaut quand même mieux vivre au XXIe siècle dans une Europe qui est quand même fondamentalement et dans ses grandes lignes relativement démocratiques que sous François Ier et Charles Quint. Je peux vous assurer que Charles Quint était quand même peut-être un... Parce que lui, il avait son empire allé jusqu'aux Amériques, mais je peux vous assurer que c'était violent quand même hein, de vivre sous François Ier. François Ier, certes, il a fait venir Vinci, certes, c'était un mécène, mais dès qu'il pouvait l'abandonner et guerroyer et massacrer à coups de hache, il le faisait aussi. Remettons les choses en place quand même. Qu'il vaut mieux vivre au 21e siècle quand même qu'au 17e ou 15e ou 16e, vraiment.
Voilà, merci beaucoup Olivier de votre appel depuis Rouen, et puis vous avez eu une véritable réponse de Bruno Solo. Bruno
et
Solo.
La mienne, en tout cas, c'est
ouais,
pas,
bien
pas
sûr.
Une bonne réponse,
non, mais en tout
mienne.
Cas, voilà, et puis vous avez pris le temps. François Ier, Charles Quint, vous les avez cités, Louis XI et j'en passe, bien sûr, Bruno Solo. Vous révélez au fil des 6 épisodes la personnalité hein, de ces hommes, de ces femmes, avides de pouvoir. Vous vous êtes attaché aussi à scruter les forces, les failles de nos hommes, nos femmes politiques contemporains.
Oh non. Enfin, je les regarde. Je suis un observateur pas plus inspiré qu'un autre. Hein. Je regarde la vie politique et puis j'ai mes opinions. J'ai eu l'occasion parfois de les exprimer, on les connaît, je viens plutôt d'une famille libertaire, de gauche, donc évidemment mon attirance, mes impulsions, mon intuition va plutôt de ce côté-là. Mais pour autant, non, je ne me permets pas de juger, je ne suis pas un analyste
pas
politique.
Pas juger, de scruter, j'ai
ah,
dit.
Scruter, ah, bah oui, je scrute comme chacun d'entre nous, je scrute et puis après je me fais mon avis, mais je suis pas. Je me suis détaché un petit peu de la politique au sens politicienne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la philosophie politique et c'est tout ce qui construit.
Notre société,
le monde de demain.
C'est ça, c'est là où je voulais aller aussi, parce que je sais que vous avez participé, vous avez signé cette tribune, parce que vous êtes un homme engagé et vous vous préoccupez bien sûr de ce que sera demain avec Zazie, avec Chaka Pong. Vous êtes un des signataires de cette tribune pour le climat.
En fait,
en tout cas, les bons gestes, 42 bons gestes.
Ouais, enfin, il peut y en avoir beaucoup plus, mais en fait, depuis quelques semaines, effectivement, on essaye et sur les réseaux sociaux, et à la télévision, et à la radio, de donner des exemples tout simples pour améliorer notre quotidien et celui d'une planète qui effectivement va à volo, dont moi je souffrirai moins à mon âge, mais je pense évidemment, ça devient pensif de le dire, mais si ce pensif peut faire avancer les consciences, tant mieux, effectivement, de faire en sorte que nos enfants, et a fortiori les enfants de nos enfants, puissent bénéficier d'une planète à peu près correcte, comme on a la chance de bénéficier, d'en bénéficier encore à certains endroits. J'écoutais tout à l'heure dans votre journal ce qui est en train de se passer à Yellowstone, qui est
c'était
quand même
édifiant,
un des poumons effectivement de la planète et un des endroits les plus préservés de la planète. Quand on voit effectivement ce qui se passe, on n'a pas le droit de ne pas s'alerter. Et voilà, c'est des gestes de colibri, mais chaque petit colibri, mis les uns à côté des autres, ça fait des gestes de géants aussi. Voilà.
Merci beaucoup Bruno Solo, la formule est là. Du 20 décembre au 3 janvier, la saison 3 de cette série documentaire La Guerre des Trônes, c'est sur France 5 à ne pas manquer. Et si vous la loupez malgré tout, vous avez La Guerre des Trônes. Ça, c'est la redite de la saison 1 et 2
ça,
en livre.
C'est que la saison 1.
C'est que la saison 1. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un prochain ouvrage sur la saison 2
si
et pareil
marche,
pour la saison 3.
Voilà.
Donc La Guerre des Trônes, c'est en librairie également avec
très
votre préface.
Très bonne idée cadeau pour Noël.
Exactement. Vous avez la préface de Bruno Solo et sur la série, vous avez sa voix. Donc,
ah non,
allez-y.
Pas ma voix, j'y suis. Je suis présent physiquement.
Bah, bien sûr.
C'est pas ma voix, je suis là aussi. Hein. Je raconte l'histoire.
Pardon.
Je suis un passeur.
Exactement. Merci beaucoup Bruno Solo. Accessoirement. Merci en tout cas.
À suivre dans votre grand journal du soir jusqu'à 20h, Nathalie.
On va parler Cinoche, mardi. Cinéma, c'est avec Mathieu Charrier.
Évidemment, et c'est dans un instant sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. La culture sur Europe 1 dans votre grand journal du soir jusqu'à 20h comme tous les jours et comme tous les mardis. Coup de projecteur sur les films à ne pas manquer demain en salle, Nathalie.
Et on est mardi. Mardi, c'est Cinoche obligatoire avec vous, Mathieu Charrier. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous commencez avec votre coup de cœur de la semaine. Le nouveau film d'Edward Norton. Comme acteur et comme réalisateur, ça s'appelle Brooklyn Affairs.
Et c'est d'abord un grand film de détective privé, vous savez, à l'ancienne, avec tous les clichés du genre qu'on adore. Alors, on est dans le New York des années 50, un peu crasseux. Lionel est un détective particulier, notamment parce qu'il est atteint du syndrome Gilles de la Tourette. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sortent de sa bouche sans qu'il ne puisse réellement les contrôler. Alors, le jour où son mentor et ami Frank Mina va mourir assassiné, Lionel se lance dans une enquête pour trouver les coupables. Enquête qui va le plonger dans les magouilles immobilières de l'époque, dans une ville en pleine mutation, où les petits immeubles et entrepôts sont rasés pour laisser pousser les gratte-ciels que l'on connaît. C'est ce qui est génial d'ailleurs dans ce film, c'est que derrière l'histoire de détective à l'ancienne, il y a aussi une réflexion politique et sociétale, explique Edward Norton.
Mais vous savez, c'est amusant. Nous vivons une époque intéressante. Chez vous, ça se voit à travers les gilets jaunes. Ces gens disent « Hey, on doit être entendu et pas exclu de ce riche héritage et de la prospérité d'aujourd'hui. » Ce n'est pas important que la ville soit romantique ou pas. Parce que eux, ils s'en sentent exclus. Ça créera forcément des frictions.
Ah voilà, Brooklyn Affairs avec Edward Norton, donc, mais aussi Bruce Willis, Alec Baldwin en politicien véreux, William Dafoe. Bref, c'est ce genre de film divertissant et enrichissant que nous sommes fiers de soutenir Europe 1. Allez-y.
Et en plus, c'est un retour pour Edward Norton. Hein. Il avait un peu disparu là depuis une huitaine d'années. Votre deuxième coup de cœur, c'est le film It Must Be Heaven, signé Elia Souleymane.
C'est un petit ovni cinématographique qu'on avait découvert au Festival de Cannes. Alors le réalisateur s'y met en scène, fuyant la Palestine et cherchant une nouvelle terre d'accueil. Il va passer par Paris, par New York et découvrir à chaque fois une culture et des habitudes qu'il ne connaît pas. Mais sa terre natale le poursuit. Ce film, c'est un conte burlesque, muet, puisqu'il ne parle pas. Très beau, dur à résumer, mais la mise en scène tellement juste. Ça fait 10 ans qu'Elia Suleiman n'avait pas sorti de film. On peut y voir du Jacques Tati, du Buster Keaton, ou tout simplement Duolia Suleiman. Accessoirement, ça s'appelle It Must Be Heaven.
Et du côté des films français, tiens, la grosse sortie de la semaine, ça n'a pas pu vous échapper, c'est Le Meilleur Reste à Venir, porté par Fabrice Luchini et Patrick Bruel.
Et signé,
alors,
vous savez, des réalisateurs du prénom, avec déjà Patrick Bruel, qui il y a 6 ans avait attiré plus de 3 millions de spectateurs dans les salles. Alors,
donc normalement, il y a tous les ingrédients.
Entre-temps, il a quand même été accusé d'agression sexuelle avec une enquête en cours. Ça parasite un petit peu la sortie du film. Mais d'un point de vue cinéma, bien c'est une bonne comédie dramatique. L'histoire de deux amis d'enfance, Bruel et Luchini. Donc, Bruel est atteint d'un cancer en phase terminale, mais c'est Luchini qui l'apprend. Il décide de le cacher à son ami qui, sur un malentendu, pense que c'est Luchini qui est malade. Vous me suivez, tous les deux pensent que c'est l'autre. Alors ils vont décider de se faire passer les meilleurs moments possibles à leurs potes, qu'ils pensent ou savent mourants. C'est drôle par moments, c'est souvent tendre. C'est triste aussi, il faut bien le dire. Écoutez Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, les réalisateurs.
Comme personne ne va mourir à notre place, autant vivre sa vie le plus pleinement possible. Et en même temps, on sait que ça ne va pas durer éternellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui reste? Et c'est le point de départ de l'écriture du film.
Nous, on a été frappés de voir à quel point le cinéma populaire, ces derniers temps, s'était un peu éloigné des sujets forts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de comédies légères ou sur des choses de société, mais des choses qui nous concernent tous et qui sont à la croisée de la tragédie et de la comédie, ce qui a été souvent le cas dans les comédies italiennes des années 70 ou même chez Yves Robert, chez Sautet, etc., était devenue un peu absente.
Voilà, on est dans la veine du prénom qui joue un peu sur les mêmes sentiments et c'est toujours efficace. Ça s'appelle donc Le Meilleur Reste à Venir.
La maladie sous l'angle de la comédie, effectivement.
Exactement.
C'est pas si mal. Toujours chez les Français, un film au titre étrange, Seul, les bâtiments.
C'est d'ailleurs un film étrange, mais séduisant, c'est un procédé original. Après une nuit de tempête de neige, une femme est retrouvée morte, sa voiture garée au bord d'une petite route de montagne. On comprend vite que 5 personnes sont liées à cette disparition. Un éleveur bovin, sa femme, un jeune Africain aussi, qui séduit les hommes en se faisant passer pour une jeune femme sur Internet afin de leur extorquer de l'argent. Il y a aussi une jeune et jolie jeune femme, bref. Et on va revivre en fait les dernières heures avant le drame, mais du point de vue de chacun d'entre eux. C'est-à-dire que ça recommence un petit peu à chaque fois, mais on voit ça sous un angle différent. Et donc, on essaye de comprendre et de dénouer l'intrigue. Il y a des petits indices comme ça qui nous sont disséminés. C'est très bien fait, c'est intriguant, c'est original. Franchement, c'est à voir. Ça s'appelle donc Seuls les bêtes et c'est signé Dominique Moll.
Alors, on ira. Et puis, il y a aussi du cinéma d'animation cette semaine. Bah oui, on approche des vacances de Noël. Le retour d'une franchise bien connue. Ah, papa, oui, j'ai reconnu.
La famille Adams, qui avait un peu disparu de nos écrans. Étrange, pourtant, en pleine mode de la pop culture. Et là, voilà donc de retour dans une version. Il faut bien le dire, un petit peu polissé, pas désagréable. C'est quand même toujours drôle de retrouver la chose. Vous savez, cette main qui s'agite toute seule. Mais il ne faut pas en attendre beaucoup plus. En revanche, dans l'animation, sort aussi un très beau film qui s'appelle Le Voyage du Prince, signé Jean-François Laguioni. L'histoire d'un vieux prince échoué dans un paysage inconnu. Il arrive blessé, il est recueilli par 2 chercheurs qui sont persuadés qu'il existe des peuples différents d'eux. Et donc, on va suivre ce vieux prince et Tom, le fils des 2 chercheurs, qui découvre un peu fasciné cette société qu'il ne connaît pas. On est dans le récit initiatique, le dessin est beau, c'est poétique. C'est une réflexion sur la différence, sur ce que doit être aussi la science. C'est très beau, donc ça s'appelle Le Voyage du Prince.
Voilà, on a la liste des films à aller voir. En tout cas, il fait froid, autant s'abriter, se planquer et ressortir avec des images plein les yeux. Merci beaucoup Mathieu Charrier. Europe 1. Émilie Mazoyer, je vous vois jouer avec votre téléphone
portable.
Oui,
pardon. Si vous saviez sur quel site j'étais. Non, ça va. J'étais sur...
avec qui? On a une heure de grande écoute.
Non. J'étais sur un site de musique pour vérifier une toute petite info, mais ça y est, c'est bon, je l'ai.
Une info que vous n'aviez pas, vous? Ça ça, c'est possible.
Vous vous rendez compte, même moi. Parce que ce soir, on reçoit un garçon qui a une discographie assez impressionnante. Pourtant, ça ne commence qu'en 2003. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est ça que je vérifiais. C'est Grand Corps Malade.
Génial.
C'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore.
Disque de platine pour son dernier album qui s'appelait Plan B. Et là, il vient nous voir parce qu'il vient de terminer sa tournée. Le album donc est disque de platine. Il a sorti aussi un best-of qui s'appelle La Collection avec plein de duos. Par exemple, j'ignorais moi qu'il avait fait un duo avec Véronique Sanson.
Pareil.
Et ben voilà, c'est sur ce best-of. Donc il va nous parler de tout ça. Grand Corps Malade, on va faire un petit bilan d'étape après sa tournée très réussie.
Et ses films sont géniaux aussi.
C'est ça.
C'est qu'en fait, il est complet. Il est engagé, il parle d'actualité, enfin bref.
Il est parfait.
Ah oui, une roche. Bon, on va vous laisser alors, Émilie Mazoyer. Mais on vous écoute, évidemment. C'est en direct avec votre invité. Nous, on vous dit à demain.
18h pile.
Avec toute l'équipe, évidemment. Le sourire, les infos, la précision. On vous remercie de votre fidélité. 18h-20h sur Europe 1. Et c'est bien sûr chaque soir pour écouter Le Monde Changé.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.